Je suis tellement en retard. Y'a rien qui va. Je suis pas prêt. En plus, je me racle la gorge, micro ouvert. Le vieux, quoi. Bougez pas. Procédons par ordre. Alors, attendez. Twitch, c'est fait. Ok, TikTok, j'ai pas lancé tellement je suis à la rue. Ok. Ça, c'est moi. Ok, faut que je... Ok. Mais non, pas rendez-vous médical. D'habitude, je me racle la gorge avant le live, mais hors stream, quoi. Enfin, micro éteint, quoi. Allez, ça, c'est bon. Ok, TikTok, let's go. Ok. Non, parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas copié-collé les titres de la revue de presse. Du coup, je me raclais la gorge à l'instant et je lisais dans le chat des... Sam, arrête de t'étouffer dans ton micro, viens nous parler. Sam se racle la glotte. C'est mieux de se racler la glotte que de se... Non, peu importe. J'entends des sangliers dans mon casque. Merci Onim TV, je crois que tu es le premier sub de ce matin, non, le Figumgum, très beau pseudo, a pris un quatrième mois d'abonnement juste avant. Hop, ça on enlève. Merci Yoman, merci Estelle. Ouais, désolé pour... tout à l'heure. C'est quoi les gens qui sont qui aiment pas les bruits là, notamment les bruits de bouche misophobe. Je ne sais plus. Merci Vincent 6ème pour les bits. Comme on dit déjà. Salut Gemma. Ouais, on a fini Dispatch hier. Ou alerte, on va y revenir, c'était génial. Misophone. C'est ça. Les original Pimousse. Les misophones, ceux qui n'aiment pas la soupe miso. La chance, je suis en cours, j'en peux plus. Salut Gabin Delpech. Force à toi. Non, pas misogyne. Oh là là, putain, ça y est, le mec il s'est cru sur X Twitter, quoi. Ah ouais, misogyne. Ouais, ça y est, c'est parti. Ok. Bonjour, je regarde le live en donnant mon plasma sanguin. Bravo, Taser. L'occasion de rappeler qu'en France, on a des besoins constants de dons de sang, de plasma aussi. Si je dis pas de bêtises, le don de plasma, c'est pas très différent, je crois. C'est juste un tout petit peu plus long parce que... mais c'est la même chose un peu, c'est ça? Tu peux nous parler du don de plasma? Jalo, je suis désolé, je me suis endormi sur le live hier soir, j'espère que tu as bien aimé le jeu, on a adoré le jeu. Ouais. Ça... Ouh! Mesdames et messieurs, nous avons un raid ce matin, un raid de bon matin, d'Adil Rami. Mesdames et messieurs, Adil Rami. Et vous dites, tiens, c'est marrant, Adil Rami, comme le joueur de football, le champion du monde. Oui, c'est lui, c'est le vrai, le seul et l'unique Adil. Qu'est-ce qui t'a amené à streamer si tôt le matin? Est-ce que c'est un stream d'hier soir tellement tardif qui se finit le matin? Est-ce que tu étais sur du Call of Duty? Black Ops 7, un truc comme ça? Non, je sais pas. Je suis en train de m'interroger sur le type de jeu qui peut te faire streamer si tard. Regarde, je vois un Diesel qui nous dit, Adil, merci encore pour la Coupe du Monde 2018. Ouais. Merci pour le raid. Je mets une petite pièce sur un stream tardif comme ça, sur un Call of. Hein, peut-être, on va en parler ce matin. J'y vais à 14h pour le plasma. C'est plus long car il filtre le sang, la source, pour n'avoir que le plasma. Voilà, c'est ça. C'est pas plus douloureux, c'est pas plus compliqué qu'un don de sang. Il y a des besoins également. C'est juste un petit peu plus long et normalement, vous avez le droit au petit sandwich après. Moi, je regarde ton live au travail. Je suis en alternance cabinet comptable. Willem, bravo. On a besoin de comptable en vrai. Hein. C'est les métiers, il y a du travail. Ça manque de candidats, ouais. Merci à tous ceux qui me demandent si ça va. Moi, ça va. J'espère que vous aussi. Marseille t'aime, Adil, nous dit Roms. Voilà, c'est beau, ça. On voit encore ton émission au Québec. Bravo, les Québécois. Merci à vous. J'ai regardé 3 minutes du live hier soir. Le jeu avait l'air si bien que j'ai arrêté de regarder pour l'acheter et jouer de mon côté. La patte, tu vas te régaler. Moi, j'ai adoré ce jeu. Dispatch, Shadow Rian, le jeu d'hier soir. On y a consacré 3 streams. On l'a terminé. On a fait les derniers épisodes de ce jeu qui est incroyable. Point d'exclamation Dispatch. Dans le chat Twitch, vous avez le comment on dit
le synopsis.
Le Synopsis, bon, c'est pas une OP, hein, c'est vraiment un jeu que j'ai acheté de mon côté, que j'ai kiffé, quoi. J'ai dormi un petit peu, mais pas beaucoup, et pardon pour cette revue de presse si tardive ce matin, mais je me suis vraiment couché tard. On a cut le live vers 1h30 du mat. Non, oh non, j'exagère. Minuit et demi, 1h30. Si, 1h30. Et après, j'ai lu les journaux jusqu'à 3h15 à peu près pour la revue de presse de ce matin, et du coup, j'étais crevé, j'ai dormi 5 heures. Ce qui était ok, mais du coup, ça m'a fait lever tard. Ouais. Et en plus, c'est bien payé, expert comptable, me disait Zelle. Ok. Aude Linox, mesdames et messieurs, Aude Linox est avec nous, fidèle de la communauté TikTok, puisqu'on stream depuis 5 ans sur Twitch ici, mais depuis quelques semaines sur TikTok le matin pour la revue de presse. Et Aude Linox, qui est là quasiment tous les jours, vient de devenir modératrice sur notre chaîne TikTok. Je sais pas si tu as vu Aude Linox, j'ai répondu à ton mail et je t'ai donné les droits. Et Anonyme 31 aussi chez les modos, je ne savais plus comment donner les droits sur TikTok de modération, et est également modératrice, si je dis pas de bêtises, aussi. La matinée Étienne, c'est tous les matins, ouais. Elmorgen Amine, joli pseudo. Les deux, c'est très bon, hein. Me demande est-ce que la matinée Étienne c'est tous les matins ou ça varie. Alors avant, ça variait. Avant la matinée Étienne, coucou Manon, merci. Merci à toi. Hein. La matinée Étienne avant c'était le plus souvent possible. C'était très souvent en fonction aussi de mes enregistrements télé. Comme je me désengage et que je fais moins de télévision qu'avant pour pouvoir streamer plus, eh bien je tiens à ce que la revue de presse désormais soit un rendez-vous quotidien, pas le plus souvent, pas de temps en temps, tous les jours, du lundi au vendredi. Et vous le savez, depuis le mois de juin, en fait, la revue de presse, elle est quotidienne du lundi au vendredi. Voilà. Et quand, exceptionnellement, le matin, je ne peux pas la faire, bah, je vous la fais l'après-midi, voire le soir. C'est un rendez-vous quotidien que vous avez en live sur Twitch et TikTok. Coucou Anonyme 31. Merci Zira Bellini, ton message me fait bien plaisir. En live le matin sur Twitch et TikTok, en replay tout de suite après sur YouTube et sur Twitch gratuitement, t'as pas besoin d'être abonné, et sur en podcast audio désormais aussi depuis quelques semaines, pour l'exclamation podcast dans le chat Twitch, et vous avez toutes les infos, les Deezer, les Spotify, les Apple Podcast à partir de 15-16h tous les jours, le podcast en replay. Salut Shadow Ryan, merci pour le time out. Comme quand tu étais à France Info. Oui. Enfin, à France Info, je me levais à 2h du matin. Donc là, je dors plus quand même. Hein. Merci Tchad. Merci Tchad 8824. Et encore merci Adil pour le raid de tout à l'heure. Depuis cet été, cet engagement a presque été tenu. Et ça, c'est beau. Merci Sam. Merci Poum. Et ouais, là, on est maintenant. C'est devenu sérieux ici. Hein. C'est devenu sérieux. Merci beaucoup pour les retours positifs sur Time Out, notre beau jeu de culture générale avec 6 candidats qu'on a fait. Quelle journée ? Mercredi soir ? C'est en replay également sur YouTube et sur Twitch. Mais c'était super, ouais. Ouais, les deux cœurs, ouais. Pietro, je m'en suis douté, il fallait donner les deux cœurs pour la belle fin de Dispatch. J'ai tellement aimé le jeu qu'il y a un monde où je crois que je vais relancer le jeu en faisant peut-être d'autres choix, et en même temps j'ai envie de refaire confiance à Invisimeuf. Bon, ceux qui n'ont pas vu le jeu, vous n'avez pas la ref. Et en même temps, je me dis que jouer avec Aurore, ça pourrait être aussi une dinguerie, quoi. Ben, ou alors faire comme Henri Tran, c'est-à-dire... Sacré Henri, jouer les deux cartes, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois. Hein, sacré Henri. Henri a réussi à, donc, comment dire, à entretenir des relations avec les deux personnages. Et moi, littéralement, quasiment avec zéro, quoi. Après, bon. Il faut rejouer deux, trois fois. Bah oui, mais je sais pas, moi, ce soir, j'avais prévu peut-être de lancer le dernier Call of Black Ops 7 qui est sorti à minuit. Hein, on a raid d'ailleurs un ami qui le streamait hier soir. Oui, c'est un jeu à choix, Oscar, ouais, exactement. Et tu vois, peut-être le mode histoire ce soir, avant de faire éventuellement un peu de multi. De peut-être faire un. Tu vois, vous en pensez quoi? Ça vous dit si je lance un Black Ops 7 ce soir? Merci Monsieur Patafred. Merci Estelle, merci Zirabellini. Pardon, j'ai un petit chat ce matin. Non, je suis pas malade, j'ai un chat dans la gorge. Merci Chad 8824, merci beaucoup. Je suis. Oh, j'adore. Il y a User 874723 qui nous dit: je parle pas trop fort, vous allez comprendre pourquoi. Je suis au boulot et je vous écoute avec mes oreillettes cachées sous mes cheveux. J'adore ça. J'adore. Je comprenais pas le fais-le sortir, pauvre bête. Ploum, ploum, ploum. Fais-le sortir. Pauvre bête, le chat dans la gorge. Ok, j'ai compris. Tu m'as fait acheter Dispatch hier, résultat des courses, couché à 2 h, réveillé en retard pour le boulot. Heureusement que je suis entêté. Tu penses quoi du face reveal de Anne Yaris? Moon, d'une manière générale, moi je me prononce pas sur le physique des gens parce que je trouve que c'est un peu préhistorique de qualifier de parler du physique des gens, puisque c'est un petit peu ce que j'ai beaucoup vu sur les réseaux. Après, c'est intéressant que sur le fond, cette créatrice de contenu, elle ait ressenti le besoin de masquer, de cacher son visage pendant si longtemps, pour des raisons qu'elle a expliquées, hein, et qu'aujourd'hui, elle a décidé de se face reveal, donc de dévoiler qui elle est. Ça, c'est intéressant. Ça pose des questions sur notre société, les rapports hommes-femmes. Ça, en vrai, c'est un sujet qui est très intéressant. J'ai une amie qui a passé ses partiels avec un écouteur et une amie à distance qui lui filait les réponses. J'adore. J'adore. Merci, Staff, pour ton message. Coucou, je t'écoute tout le temps au boulot. Chez moi, me dit Matt, les écouteurs sont autorisés. Moi aussi, je suis au boulot, me dit Super Gugus, mais je suis sur la route, donc pas de problème à cacher les écouteurs. J'adore. Je te suis depuis le Japon. Cette commu est incroyable, me dit Théodorend. Il est 19 h ici. J'adore. Oui, Moon, j'avais compris que c'était plutôt sur le fond que tu me posais la question. Je vois un salut les punks à chat qui me fait bien plaisir. Même si je suis plutôt team punk à chien, moi. Waouh! Le message de Staff, il est incroyable. On parlait des écouteurs. Est-ce qu'on peut. Comment écouter la matinée, Étienne, au boulot, discrètement, avec écouteurs, etc. Il y a Staff qui écrit. Je crois que c'est l'un des plus beaux messages de ce matin. C'est sur le chat TikTok. Moi, je suis thanatopracteur. Donc, les écouteurs ne dérangent pas. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut avoir une salve d'applaudissements? Est-ce qu'on peut avoir une hola, s'il vous plaît, pour ce message? Hein, thanatopracteurs, bon, si je dis pas de bêtises, ce sont les personnes qui préparent les corps après la mort, c'est ça? Hein, c'est ça? Donc évidemment, avec tes clients, oui, ça, on peut pas dire que un petit peu de son de musique dérange beaucoup, quoi. Au contraire, même peut-être. J'adore. Voilà, tu as des applaudissements, tu vois. Alors, tu as des applaudissements dans le chat TikTok, tu as des applaudissements dans le chat Twitch aussi, hein. Pour la bonne humeur et l'humour, on est cross plateforme ici. Hein. Je travaille en EHPAD et je te mets toujours tes actus aux résidents, ils adorent. Bah Tate, merci Tate. Voilà, et puis bonjour aux résidents alors. Bonjour aux résidents, ça fait bien plaisir. Ah, Staff, tu nous as régalé là. Tu nous as régalé. Alors, j'ai pas la blague de la rêve de Razen qui devait être problématique puisque The Original Pimous l'a supprimé. Bon, je vois pas le. Comme j'ai pas la rêve, je vois pas où est le sujet, mais bon. Nausicaa, merci pour l'abonnement offert à la commu, c'est adorable. La série de jeux Mass Effect, c'est du shoot à gogo et des choix à conséquence, c'est banger de fou. Je sens que ça pourrait te plaire de ouf. Mass Effect. Mass Effect. C'est bien ça? Tu m'intrigues un peu là. Comme dit Valérie Lemercier dans un sketch, il nettoie le caca des morts. Waouh! Merci Nausicaa. Merci pour l'abandon. Ah ouais, j'ai vu ça d'Alérac. Ouais, j'attends d'en savoir un peu plus sur cette histoire, je la trouve tellement monstrueuse. Oh oui, d'aller, j'ai vu ça dans la presse. Écoute, j'en parle pas ce matin, mais je me suis mis ça dans un coin de ma tête, c'est tellement monstrueux. C'est dans l'Humanité que j'ai vu un article là-dessus ce matin. Ouais. Mass Effect, c'est bien? C'est des bangers? Grand classique du jeu narratif? Un peu daté? C'est bon, mais il faut 100 heures pour finir la trilogie. C'est culte! Voilà, alors Staff dit, je ne nettoie pas le caca des morts, pour reprendre l'expression de Valérie Le Mercier, je les rends beaux pour dire au revoir une dernière fois. C'est un très beau métier, Staff, et je le dis premier degré. Je le dis premier degré. Vraiment. Merci Oderlin. Merci Hiro Ronoa. Merci à tous les deux. Mass Effect, attends, je vais aller faire le trailer. C'est un peu vieilli quand même. Meilleure série de jeux vidéo de tous les temps, me dit Oxlander. Tu as vu la vague de haine que Aenaris a pris après son face reveal? Oh là là, pff, quel bordel. Mais dans quel monde vivons-nous? Je t'écoute en cours magistral de démographie avec des écouteurs qui passent dans les manches. Mais KJ117 live. Enfin, je veux pas faire le daron, mais t'es en cours, donc t'es étudiant ou étudiante. Je veux bien croire que le cours soit pas forcément à ton goût, mais pardon, hein, je vais faire mon daron, mais je suis super content que tu m'écoutes. Mais à partir du moment où t'as fait l'effort d'aller en cours, tu t'es levé, donc il y a une forme de rigueur là. Est-ce que m'écouter te met en bonne condition pour écouter ton cours? Je sais pas, je me Tu vois, ou alors tu arrives à faire les deux, hein. Dans ce cas-là, c'est ok, mais t'as déjà fait la plupart du. T'as fait le plus gros de l'effort, quoi. T'es là, t'es en cours. Peut-être profite du cours, je sais pas. Mais je dis ça, je perds un viewer ou une viewer, hein. Mais je me dis que c'est dommage. Mass Effect est devenu un incontournable que j'ai raté d'ailleurs. Un jour, je le ferai, me dit Poum. Ok, d'accord. Ok, je vais aller voir ça. Ouais, il y a Life is Strange que je dois reprendre aussi, ouais. Mais on va le reprendre à zéro, Life is Strange, je pense. Ah, Fallout, par contre, je n'ai pas accroché Fallout. Ou alors il est le prof. Vous êtes plusieurs à me dire. Ou alors c'est le prof. Bravo, Bartuslan, qui nous regarde en étant d'astreinte pompier. Bravo, bravo, bravo. Ok. C'est pas bien, Mass Effect, c'est excellent, me dit Furevener. Ok. Merci JT du 37 et force. Pour ma part, j'écoute ta revue de presse tous les matins en faisant mon second job alimentaire, le ménage. Et quel bonheur d'écouter l'actualité sans le côté angoissant des journaux TV. Alors, c'est ton premier message dans le chat, JT 30, du 37, et franchement, c'est un magnifique premier message. Vous voyez, parfois, il y a des premiers messages, c'est caca. C'est. Ou alors c'est une insulte. Ou alors c'est une dinguerie. Et toi, ton premier message, il est juste magnifique, quoi. Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire. Clair-obscur, oui, on a commencé Clair-obscur, mais. Le jeu était super, mais je pense qu'il est trop long à finir pour moi. C'est pas un concours, mais j'ai trois jobs ici, Super Gugus. En même temps, ton pseudo c'est Super Gugus, donc. Enfin, moi, je m'appellerais Super Gugus. Perso, c'est pas un concours. Hein. J'aurais pas trois jobs, j'aurais sept jobs. Tu t'appelles Super Gugus, t'as littéralement un nom de super-héros, quoi. Donc, pardon. Hein. Merci beaucoup, le colonel Chabert, pour ton message. Non, mais pardon, Super Gugus, ouais, c'est pas un concours. J'ai trois jobs. Moi, j'aurais un pseudo comme ça. J'aurais sept jobs ou 11 jobs ou Steve Jobs. Waouh, waouh. Samuel Etienne, très en forme. Vendredi matin, on est bien, on est bien. Force, Moshi Yob, force. Je suis tellement con, je rigole de mes propres blagues, quoi. Waouh! Ouais, alors, Tabs, non, Blow Job, je ne serais pas allé là-dessus, là. Non, non, non. Non. Ouais. Elle est validée, c'est validé. Ok. Laquelle? Steve Jobs ou l'autre avec Blow? Ok. Bon, Mass Effect. Allons voir ce jeu-là. Ok, est-ce qu'on peut envoyer un max de force, s'il vous plaît, à Néonomicon ou Néonomicon dans le chat, qui nous écrit: Salut le GOAT, merci pour les travaux, je suis dans une passe de ma vie un peu spéciale, où le moi que je veux devenir me pousse vers l'avant et le moi d'hier me tire en arrière. Je suis un peu comme écartelé et ce n'est pas facile tous les jours. Néonomicon, sache que tu n'es pas seul, hein. Je pense qu'on est sûrement beaucoup à se retrouver dans cette phrase, et on t'envoie un max de force. Et ça va le faire. Embrasse cette petite mamie de 91 ans, Birgit, s'il te plaît. Ouais, tu as plein de alors je ne sais alors tu as plein de messages pour toi dans le chat Twitch qui arrive, et sache que c'est ce qui est joué dans le chat TikTok également. Voilà. Voilà, tu vois, il y a beaucoup qui nous disent que ça leur parle. Bravo. Mass Effect, trailer. Let's go. J'ai un truc qui a 4 ans, là, ça va être le dernier, ça. Reveal trailer. Trailer. Ça va être ça. Ok, je vous mets ça. Ça se trouve, c'est un coup de cœur, on sait pas. Hein. Alors, Google. Ok, là, vous avez rien, c'est normal. Là, vous avez quelque chose. Là, vous avez ça. TikTok, je vous le mets aussi. Et après, on part sur l'actu. Hein. Désolé, je prends un peu le temps de discuter avec vous ce matin. C'est mon petit plaisir. Tac, 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 tac. Voilà, vous l'avez. Ok, un peu de son. Le son, je vous le mets un peu plus fort. Il y a un remaster de la trilogie. J'ai l'impression que c'est un trailer d'annonce officielle 4K, édition légendaire, Mass Effect. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Il y a un reboot de la trilogie il y a 4 ans. Ben, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est ça. Let's go. Ok. Ça commence bien. Qui moi? Moi? I was born moi to do this moi? Ok. Bon bah je crois qu'on va devoir jouer alors. Hein? Waouh! En plus il y avait un message pour Samuel Etienne, vous avez entendu à la fin. Ils ont mis un message dans le trailer pour moi. Ouais. Écoutez, c'est très clairement dit là. À 1 minute 25, écoutez. À 1:31. You were born to do this. Putain, je suis l'élu. J'ai toujours dit de toute façon que j'étais l'élu. Donc ça, c'est pas tellement une surprise. Waouh! Ok, ça a l'air cool. Tu dois amener l'humanité à se lier avec toutes les autres espèces. Tu dois amener l'humanité à se lier avec toutes les autres espèces. Ok, vous êtes sûr que c'est un film de science-fiction, ça? Ça me rappelle d'autres films, moi. Pour sauver la vie face à une menace? Ok, ouais. Ouais, se lier à toutes les autres espèces. Ok. Ouais. 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 Non, pas lié comme ça? Ok. Ouais. Mélangez-vous, vous avez bien raison en vrai. Bon, on va bosser, mais d'abord, il va falloir que j'aille coller les titres. Oula! Savez, de temps en temps, moi je travaille avec des gens formidables. Et notamment des gens qui me proposent des OP, vous savez, des sponsorings de stream. Voilà. Et donc, c'est des gens qui, évidemment, très sérieusement, avant de construire un truc, me demandent si je valide la marque. Hein, la marque, le produit, la philosophie de l'entreprise derrière, quoi. Tu t'associes pas. Waouh! J'ai un message sur TikTok. Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques. La fonctionnalité d'envoi de cadeaux est suspendue durant ce live pendant 10 minutes. Motif contenu reproduit. C'est la bande-annonce là? C'est la bande-annonce du jeu qu'on a mis? Ton live est également restreint dans les recommandations et les résultats de recherche pendant cette période. J'ai pris 10 minutes d'amende là? Ah, TikTok! On a passé une bande-annonce de jeu, j'ai pris 10 minutes d'amende là. C'est quoi cette plateforme du diable là? Ah bah dis donc, on me conseille Mass Effect, je vais voir par curiosité. Eh bah dis donc. Ah, c'est la première fois que je vois ça sur TikTok. Ok. Comment fais-tu pour rester jeune? Pourquoi tu vieillis pas? J'ai une très bonne caméra, no stress, et une très bonne lumière. C'est aussi simple que ça. Et donc, je disais, donc, on me demande de greenlighter, de donner mon feu vert à une marque. Et là, par exemple, on vient de me faire une proposition. Parfois, je vais voir l'entreprise, le produit, quand je connais pas. Là, c'est non direct. Je ne vous dirai pas. Non, impossible. Marc. Non, c'est très. Et là, je réponds tout de suite, il n'y avait pas besoin de réfléchir. Ouais. Ah ouais, c'est marrant que la personne, d'ailleurs, me pose la question. Ouais. Ah ouais, c'est un enfer, ça. Ah, surtout, non, je veux pas travailler avec eux. Voilà. J'ai bien fait d'aller voir. Ah, je vous donne pas la marque, je vous donne pas la marque. Non. Non, ça n'a rien à voir avec. C'est pas une histoire de. C'est rien à voir avec la sexualité ou. C'est vraiment un truc de. Je me retrouve pas dans les valeurs de l'entreprise, quoi. Mais ça, on peut pas faire n'importe quoi à un moment. Donc c'est non. Pour le coup, quand vous voyez que je fais une OP ou un sponsoring, alors vous pouvez apprécier ou pas l'entreprise, hein, vous pouvez dire ah ouais, mais. En tout cas, si je le fais, c'est que. C'est OK pour moi, quoi. C'est dans quel domaine? Je peux le dire, c'est dans le domaine du divertissement. C'est dans le domaine du divertissement. Alors certains apprécient, hein. On n'est pas sûr, non, on n'est pas sur le. Alors les choses environnementales, je fais très attention. Mais là, on est sur le divertissement. Et certains trouvent ça enfin, tout à fait OK, mais moi, c'est non. Là, c'est non, 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 non. Non, pas divertissement pour adultes, même familial, divertissement très familial. Ouais. Non, c'est même pas du jeu de l'argent. Non, non, c'est un truc. Moi, non, moi, je dis non. Hein. Alors, donc, je vous disais, ce que j'ai pas fait ce matin, c'est que j'ai pas fait le sommaire. Je vais vous le faire. Hop, sommaire. Je vous le mets sur Twitch. D'abord. Hop. Alors, vous allez voir, j'ai vraiment de super actus ce matin. C'est-à-dire vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'actus très intéressantes ce matin. Je vais vous montrer ça dans un instant. J'ai dû faire des choix, même, il y avait beaucoup de choses. J'ai dû faire des choix, même. Tellement il y avait des choses sympas, quoi. Vraiment, hein. Je dis pas ça tous les jours. Ok, là, je vous le mets. Là, regardez, on a ça. Ouais. Et alors, pareil, TikTok, je vais vous le mettre aussi. Excusez-moi, parce que normalement, je le fais avant le live, ça, puis ce matin, j'ai oublié. Manque de sommeil. TikTok, vous êtes là, vous êtes où? Bon, je ferme Mass Effect qui nous a pas réussi là. Ok. Ah ouais. Ah ouais, ils m'ont envoyé un autre message, ouais. Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques. Il parle de la bande-annonce de Mass Effect. La fonctionnalité d'envoi de cadeaux est suspendue durant ce live pendant 10 minutes. C'est dommage parce que en cadeau sur TikTok, je gagne à peu près 0,85 euros, donc 85 centimes par live grâce au cadeau TikTok. Je pense que je me débrouille assez mal avec la monétisation sur TikTok. Bon, je suis pas venu sur TikTok pour faire des sous, mais je gagne un peu moins d'un euro par live, hein, pour 3 heures à peu près. Donc, c'est pas trop grave que les cadeaux soient suspendus, en vrai, hein. Motif contenu reproduit. Ils n'ont pas aimé le trailer Mass Effect. Ton live est également restreint dans les recommandations. Et c'est vrai que j'ai perdu des viewers depuis 10 minutes et les recherches pendant cette période. Ouais. Donc là, il n'est pas impossible que je perde pas loin de 5 centimes d'euros en raison de cette sanction, quoi. Non, pas TTC, en chiffre d'affaires en plus. Ouais, 80 centimes en chiffre d'affaires. Après, il faut enlever les taxes, tout ça. Ouais. Non, TikTok, c'est. La monétisation live sur TikTok, c'est pas très convaincant, on va dire. Mais je suis pas là pour ça, pour le coup. Sinon, je serais pas là. Allez, je vous mets. Donc, ça, c'est le sommaire d'hier. Je vous mets celui d'aujourd'hui sur TikTok. Hier, on a fait une spéciale attentat du 13 novembre 2015. Voilà. C'est comme retirer le permis de conduire à un homme tronc. Ah, il y a des hommes troncs qui conduisent. Voilà, vous l'avez. Et on est déjà sur le sommaire, puisque le bonjour, on vient de le faire. Voilà. On va créer une cagnotte. Non, mais ça va, hein, tout va bien. Hein. Si je suis là, c'est que tout va bien. Hein. Voilà. Hop. Et je vous mets. Voilà. Les journaux qui arrivent, qui sont juste là. À ce niveau-là, il y a encore un intérêt à le faire? Oui, parce que dire à tech, parfois, tu fais pas les choses que pour l'argent. La matinée Étienne. Ce que je fais tous les matins, c'est pas sponsorisé. Ou alors très rarement. De temps en temps, j'ai la chance que ce soit sponsorisé, mais c'est un rendez-vous qui n'est pas sponsorisé. Donc, heureusement, alors y a les subs, bien sûr, sur Twitch, hein, pour une partie des viewers. Ouais. Sur TikTok, il n'y a pas, je vous l'ai dit à l'instant. Mais pour le coup, c'est un rendez-vous auquel je tiens, parce que c'est mon rendez-vous principal sur Twitch. Et je pense que c'est le rendez-vous qui a construit ma chaîne, qui a construit ma communauté. Puis moi, je suis passionné par l'actu. Il y a des subs TikTok, bah, c'est ce que je viens de dire, Sugar. Moi, j'ai littéralement 85 centimes par stream. Mais je pense que je me débrouille mal avec ça. Donc, non, c'est un truc. Moi, je le fais à la revue de presse parce que je trouve que c'est bien, c'est mon kiff, c'est votre kiff, let's go, quoi. Ouais. Puis peut-être qu'un jour, elle sera sponsorisée, elle l'a déjà été, elle sera peut-être de nouveau, tu vois. Et puis, je m'équilibre avec des OP sur d'autres formats, tu vois. C'est un global, quoi. Sub et cadeau, c'est pas la même chose, de ma remarque. Ouais, je t'avoue que je t'avoue que Sugar, je me suis pas du tout renseigné. TikTok, l'idée, c'était de proposer cette revue de presse à un autre public. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas sur Twitch. Et je me suis dit, tiens, cette revue de presse, le fait de parler d'actu tous les matins, ça peut intéresser aussi des gens sur d'autres plateformes. Voilà. Et franchement, clairement, maintenant vous l'avez compris, je suis pas allé chercher un revenu complémentaire sur TikTok, quoi. Voilà. Mais tout va bien, hein, tout va bien, hein. Go, on y va? Et tu en tires quoi comme conclusion de la diffusion sur TikTok? Bah, c'est super. C'est super, je suis très content d'avoir des viewers d'une autre plateforme qui consomment et qui interagissent et qui donnent leur avis, et je trouve ça super. Voilà. Mais par contre, j'étais sanctionné parce que vous voyez, on était 380 sur TikTok avant la petite sanction là, et là on est 240 maintenant. Donc on est bien sanctionné là. C'est fou, hein. Bâtard. Bâtard. Ok. De quoi je vous parle ce matin? Donc, on part sur le sommaire, je vous donne l'essentiel de l'actu, et après on rentre dans le détail un petit peu, quoi. Alors, il y a un gros dossier dans le Parisien ce matin sur France-Algérie. Enfin, c'est pas du foot, hein, parce que j'ai mis France-Algérie. L'heure du dégel. Vous savez que les relations entre les deux pays sont compliquées depuis longtemps. Les deux pays ont un passé, sinon un passif. La colonisation, bien sûr. France-Algérie. Est-ce que c'est l'heure du dégel, puisque un homme qui s'appelle Boualem Sansal a été libéré, hein. Ah oui, t'as raison, c'est un peu... Ah oui, non, le sommaire, il est trop... Faut que je le remonte. Bien vu, voilà. Le sommaire, il est bien sur mon visage, là, mais comme ça, on voit mieux. Bien vu, bien vu. Il a été libéré, et le retour de l'écrivain... Merci, merci Manon. Ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Mais de nombreux contentieux demeurent, comme la détention du journaliste Christophe Glaise. Voilà. Oui, 38 minutes, merci pour le TC. Merci beaucoup, merci mon ami. Merci. Voilà, comme ça, vous savez que ça a commencé à 38 minutes. Mais plutôt pas mal, on n'est pas en retard. Non, c'est la même police que d'habitude. Je peux, je vois, par contre, je peux faire ça, tu vois. Ah ouais, peut-être. Ouais, c'est mieux ça. Voilà. Voilà. Donc, on en parlera de ça, de ce réchauffement pas trop, hein, des relations diplomatiques entre les deux pays. C'est un dossier qui est assez clair sur un sujet compliqué qui est dans le Parisien ce matin. Alors ça, c'est un sujet un peu tabou, un peu beaucoup sensible. C'est la question de la mafia en Corse. Voilà. Pop, 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 pop. Voilà. Et pourtant, la Croix n'a pas peur de consacrer sa une ce matin à la mafia en Corse, aux mafieux en Corse. Corse, le réveil anti-mafia, avec des collectifs citoyens qui se lancent dans un combat pour dénoncer l'emprise mafieuse et la corruption pour restaurer la confiance. Quelqu'un me dit, mais c'est quoi l'origine du malaise entre la France et l'Algérie ? On est dans le sommaire, là. On est dans le sommaire. Donc je vous dis ce dont on va parler. Le développement, c'est tout à l'heure, quoi. Ah. Merci à Nora. Merci à nos systèmes. Merci Coco Bébé. Merci Lilianovic. Vous êtes incroyable. Donc on lira ce dossier. Qu'est-ce qui se passe ? Une coordination d'associations appelle à manifester samedi. Tiens, t'inquiète, Bicom Square. T'inquiète, c'est une bonne question. Samedi à Ajaccio et Bastia contre les menaces qui font peser sur la Corse, que font peser sur la Corse des groupes qualifiés de mafieux. Des citoyens travaillent sur place à éveiller les consciences. Attention à ta maison en Corse, ce n'est pas parce que je pars en vacances en Corse que j'ai une maison en Corse. Vous m'avez pris pour un... Vous m'avez pris pour Elon Musk ou quoi ? Vous m'avez pris pour Donald Trump ? Vous m'avez pris pour un streamer ou quoi ? Vous m'avez pris pour un influenceur ou quoi ? Non, j'ai pas de maison en Corse. Mais j'adore la Corse par contre. Airbnb, alors bien, on parle de Corse, on parle de vacances, on parle de location Airbnb. Alors Airbnb, c'est super, c'est moins cher que l'hôtel, enfin vous connaissez, ouais, c'est super. Tout. Ouais, Airbnb, ça crée des gros problèmes aussi. Voilà. C'est-à-dire que ça retire, dans un pays comme la France, ça retire un nombre de logements importants du marché locatif classique, de gens qui veulent se loger pour dormir, pour travailler, pour avoir une famille, tout ça. Pour le proposer aux touristes, aux vacanciers, aux gens qui partent en week-end. Voilà. Et donc, c'est un des trucs qui vient nourrir la crise du logement en France. Un des trucs, hein. Elle existait, cette crise, avant Airbnb. Mais donc, c'est quand même un truc problématique. Et en France, comme dans d'autres pays, des mesures ont été prises pour enrayer la machine Airbnb, pour l'empêcher de progresser. Eh ben, le constat des Échos ce matin, c'est que cette régulation n'a pas enrayé la machine. Airbnb, la plateforme américaine, a enregistré une croissance à un chiffre de ses annonces en France sur un an. Abritel, Le Bon Coin ne voit pas non plus d'impact négatif de la loi à ce stade sur leur activité. Voilà. Donc on verra que le législateur n'arrive pas à empêcher la progression d'Airbnb et donc ses conséquences sur le logement et le mal-logement en France, quoi. Et pour les jeunes ménages des régions côtières, et pas que, c'est un fléau ça. Mais oui, Jean Cassier, je sais, je sais, je sais. Ah, ceux qui vous disent « Ah oui, mais moi je loue mon appartement sur Airbnb, ça m'a rendu les fins de mois, et puis voilà. » Bah ouais, mais c'est... Tu vois, c'est quand même problématique. Donc on lira ce dossier dans les Échos. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. L'affaire Epstein. On parlait de Trump à l'instant. Ah, ma sanction sur TikTok est terminée, les gens sont revenus. J'ai été sanctionné 10 minutes tout à l'heure parce que j'ai montré une bande-annonce de jeux vidéo. L'affaire Epstein, cette crise qui revient en pleine face de Trump, article très sérieux dans l'opinion, qui est un journal sérieux. Le Congrès américain prévoit de voter la publication des documents liés aux pédocriminels qui fut un temps proche du président. Oula, Trump a un lien avec Epstein? Ah non, bah, que Trump avait un lien avec Epstein, ça, tout le monde le sait. Il y a des photos où ils sont ensemble, ils se sont envoyés des petits mots et tout. La question, c'est pas ça. C'est est-ce que Trump savait pour le comportement de ce monsieur Epstein avec des jeunes filles mineures, quoi. C'est ça la question. Voilà. Donc, on en parle de plus en plus aux États-Unis. Et la cote de popularité du président américain aux États-Unis, de Trump, est en train de baisser fortement. Et notamment pour cette raison, puisque les Américains comprennent pas que Trump, qui pendant la campagne électorale a dit « Mais moi, quand j'arrive au pouvoir, je vais tout publier les dossiers sur l'affaire Epstein. Hein » et puis, une fois élu, il dit « Ah ben non, en fait !» Et même dans son camp, le camp MAGA, il y a des gens qui disent bah, tu nous avais dit que tu allais tout sortir. Et là, il veut plus. Et c'est moyennement apprécié. Donc, on lira ça. Voilà. Parfois, il y a des bonnes nouvelles dans l'actu aussi. Ça ressemble à une bonne nouvelle. Ça vient d'être voté à l'Assemblée. Hein? Les députés viennent de voter la création d'un congé de naissance. Alors, ça, c'est nouveau. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je n'ai pas trop suivi ce dossier, de 2 mois, le dispositif qui s'ajoutera au congé de maternité et paternité existant, donc c'est en plus de ce qui existe aujourd'hui, a été adopté en première lecture mercredi. Voilà. Remède à la natalité déclinante, blablabla, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que c'est ça? Il est prévu que les parents pourront prendre toute partie de ce congé de naissance, qui est fixé à 2 mois pour chacun, dans les 9 mois suivant l'accouchement. Le gouvernement a indiqué que ce serait indemnisé à hauteur de 70% du salaire net. Bon, je suis emmerdé. Moi, j'ai pas de salaire parce que je suis à mon compte maintenant. Voilà. Bon, donc je pense que ça ne va pas concerner les professions libérales, du coup, je suppose. Voilà. Mais pour les salariés, c'est cool en vrai. Bon, en même temps, je parle comme si j'attendais des enfants, j'en ai déjà 2. Quoique, j'aimerais bien en avoir 3 ou 4. 5. Hey, une petite famille de 7, en fait, 9, c'est joli comme chiffre 9. Bon, enfin, bon, bref, peu importe. Donc, il y a un truc qui arrive, quoi. Voilà. Donc, 70% du salaire net le premier mois, 60% le second, bah, c'est pas ridicule. C'est pas ridicule. 7, c'est compliqué pour louer les voitures. Ouais, mais tu loues un car, tu loues un bus. Madame a son mot à dire, non? Bah oui, bien sûr, c'est un projet familial. Mais nous, avec Hélène, on adore... on est très famille, on adore, voilà. Donc, ouais, 7, 7, 7. Alors le problème, c'est que, bon, je commence à vieillir aussi. Il y a ce qui me fait marrer, puis il y a ce qui est possible aussi. Pas biologiquement, mais surtout en termes d'énergie, tout ça, et d'âge. Ouais. Et puis les allocs, les gars. Les allocs. Alexandre Astier a 7 enfants, c'est vrai, Défécator. Alexandre Astier a 7 enfants, c'est vrai. Alexandre Astier a 7 enfants. Merci Alexandra Hergé pour le soutien. Merci Vlad, merci Sixtine. Avec la même compagne, il a 7 enfants. Avec la même compagne, ouais. Ouais, ouais. Si. Elon, hein, quoi, Elon 14? Non. Il a commencé plus tôt que moi, oui. Ouais. C'est fatigant, les gosses. Déjà, le mot gosse, il est affreux, Duduche. J'aime pas ce mot. Tu peux dire enfant, déjà. Et si tu trouves ça fatigant, n'en dégoûte pas les autres. C'est chacun fait comme il veut. 14? Non, Elon Musk, il a 14 enfants? Comment ça, 14 enfants avec 20 compagnes? Quoi? Ah, 2 femmes différentes, Alexandre Astier. Ah, je pensais que c'était la même personne, ok. Ok. D'accord, 5 enfants avec une première compagne et 2 avec une autre. Ok, j'avais pas la ref. D'accord, ok. Moi, j'en ai qu'un seul enfant, me dit Smalidou. Il s'appelle comment? Il s'appelle Tsukino. C'est très joli. Et c'est un sacré de Birmanie. C'est pas les enfants très très poilus, ça, avec des longs poils? C'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Et puis on finira par le dernier Call of Duty. Ah, c'est ça, des grands poils, des poils blancs, ouais, c'est ça. C'est un enfant qui fait miaou, exactement. C'est un enfant qui mange de la pâtée, ce qui est plutôt économique d'ailleurs. Et donc voilà, on finira avec le dernier Call of Duty. Un petit article dans le Parisien, mesdames et messieurs, pour la sortie du dernier Call of. C'est beau quand même qu'un journal de queue, un journal généraliste comme ça, qui n'est pas un journal spécialisé, nous parle quand même de la sortie du dernier Call of Black Ops 7. Je trouve ça cool, je trouve ça bien. Donc on fera ça. Bon alors, il est pas mal mon petit sommaire ou quoi? Il y a de l'actu, non? Vous en pensez quoi, les beaux gosses? Alors, bien ou pas? Dites pas gosse au Québec, ils vous regarderont bizarrement. Pourquoi gosse au Québec, ça veut dire quoi, gosse? Ça veut dire drogue? Hein, c'est bien, hein, c'est du sommaire qui sommaire bien. Merci. C'est du sommaire on fire. Ok. Ça veut dire couille. Gosse, ça veut dire couille. Gosse au Québec, ça veut dire couille. Il fait tout, j'ai vu ton message, mais il est incompréhensible. Je sais pas de quoi tu parles, t'es pas obligé de le spammer. La Macédoine, j'ai rien compris. Tu sais que je lis tous les messages. Hein. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas compris. Les couilles, alors attends. Donc, attends. Donc, littéralement, quand tu es Samuel Etienne et que tu débarques au Québec et que tu dis que t'aimes bien les enfants et que tu dis j'aime bien les gosses au Québec, ou t'es fier de ta famille, tu veux montrer les photos et tu dis est-ce que tu veux voir mes gosses, ou que tu dis parce que tu allais les promener en forêt, je suis allé sortir mes gosses dehors, littéralement tu parles de tes couilles, tu parles de tes baloches. Ah ouais. Eh ben c'est bon à savoir, j'ai envie de dire. Eh ben c'est bon à savoir. Ok. Si t'emmènes tes gosses au parc, tu risques d'être mal vu. Bah ouais, c'est sûr. Mes gosses en ont vu du pays. Ok. Ok. Je suis fier de mes gosses. Je trouve important de les mettre en contact avec plein d'enfants. Ok. J'emmène mes gosses à l'école. Ok. J'ai posé mes gosses sur la table au restaurant. Ouais, il faut qu'ils soient petits quand même, hein, les gosses, là. Mes gosses ne tiennent plus en place. Oh, mes gosses sont magnifiques. J'ai laissé mes gosses à la voisine. Je prends souvent mes gosses sur mes épaules. Je joue souvent avec mes gosses. Et si on organisait un truc entre nos gosses? Quel bonheur. Quel bonheur. On va laisser tomber l'actu, on va faire que ça. J'aime embrasser mes gosses avant de dormir le soir. On peut passer à autre chose? Non, Arcanine. On ne passe pas à autre chose, on reste là-dessus. J'ai besoin d'un babysitter pour garder mes gosses. J'ai 7 gosses, tout simplement. Mes gosses, ma fierté, ma bataille. Mais oui. Je prends souvent mes gosses en photo. Mais oui. Stop. Ah, c'est con, je savais pas. Ah, allez, on bosse. Let's go. Ouh, merci Princesse Fiona. Merci Alexandra. Ah, vous êtes con. J'espère qu'il y a des Québécois dans le chat. Première fois que je monte le. Il y a Believe qui dit première fois que je montre le stream à ma copine. Nickel Samuel. Il faut que je te montre ce que fait Samuel Etienne. Sur internet, c'est super carré, c'est super sérieux, c'est hyper intéressant, c'est vraiment intellectuellement, c'est un truc qui te booste, quoi. Tu vois? Ok. Allez, c'est parti. Let's go. C'est pour ta copine, France-Algérie. 53 minutes. Allez. Voilà. C'est parti. Ah, je vais même vous mettre dans le titre du live, je vais même vous mettre ça parce que je trouve ça bien aussi de comme ça les gens ils arrivent, ils savent où on en est. Voilà. France-Algérie. OK, super. Toc 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 TikTok pareil, la petite flèche et on y va. Alors, c'est quoi l'origine du malaise? Ah, Beacom Square, tu es là. Bah, on va y revenir. On va lire d'abord. C'est ce qu'on fait ici, on lit les journaux. Puis après, on en parle ensemble, bien sûr. C'est quoi? Bon, d'abord, on va parler de la libération d'un homme et du dégel que ça pourrait produire, ou pas d'ailleurs, sur les relations entre la France et l'Algérie. Donc, c'est la une du Parisien ce matin. France-Algérie, l'heure du dégel. C'est le retour de l'écrivain, Boualem Sansal, qui ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Mais de nombreux contentieux demeurent, comme la détention du journaliste Christophe Glaise, qui est un journaliste français, dont on va parler. Voilà. Édito de Marion Maure, qui est une excellente journaliste que j'ai connue il y a longtemps, à Europe 1, dans un autre Europe 1, qui nous... Ouais, Christophe Glaise, c'est un journaliste sportif, ouais. Qui nous en parle ce matin. Lisons. Boualem Sansal est donc libre. Près d'un an après son incarcération arbitraire, l'Algérie a donc accepté de le faire sortir derrière la bonne nouvelle de voir un homme âgé, malade retrouver les siens, derrière le symbole de laisser un écrivain reprendre la plume. Il y a malheureusement beaucoup de cynisme. Car cette main tendue du régime algérien traduit aussi l'envie d'humilier la France en fixant le cadre des échanges. Comment comprendre autrement le soin pris de négocier directement avec l'Allemagne, parce que c'est une négociation avec l'Allemagne qui a permis cette libération et pas avec la France, d'accéder plutôt que de dialoguer simplement avec Paris. Comment percevoir différemment le souci du président algérien Tebboune d'accéder à la demande de l'exécutif donc français de libération une fois l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau perçu comme l'ennemi numéro 1 sorti de Beauvau. La réelle politique fait partie des relations internationales et selon cette logique, un intérêt chasse l'autre. Au moment où les djihadistes prennent le pouvoir au Burkina Faso et étendent leur influence au Mali, on en a parlé ces derniers jours ici même, l'Algérie observe presque impuissante à la décomposition d'un voisin avec lequel elle partage quelques 1400 km de frontières et pendant longtemps une colère commune contre la France. Mais devant la menace croissante aux portes du pays, Alger s'inquiète pour sa sécurité intérieure. L'Algérie a un passé tragique en matière de lutte contre le terrorisme, vous savez. Un risque qui justifie de renouer les discussions avec la France, ne serait-ce qu'en coulisses pour partager les renseignements des services secrets. Dans ce nouveau contexte, Boualem Sansal n'est en réalité qu'un pion dans le grand jeu sans affect des relations internationales. Bon, voilà pour l'avis de Marion Mourgue. Et maintenant, des détails, des précisions sur cette histoire. Maintenant, comment renouer les relations entre les deux pays qui sont un petit peu tendues, notamment pour des questions d'immigration, vous le savez, mais pas seulement. Hein. Aussi en raison de notre passé commun. La libération de Boualem Sansal ouvre la voie à une relance du dialogue entre les deux pays, un dialogue gelé depuis plus d'un an, dans l'intérêt de chacun, mais pas à n'importe quel prix. Boualem Sansal libéré, la France peut-elle entamer le dégel de ses relations avec l'Algérie? Nous entrons dans une nouvelle phase, il y a un réalignement des planètes, estime l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet. Rappelé à Paris au printemps, le diplomate espère regagner prochainement son poste si le président Macron le décide. Donc j'apprends qu'il n'y a plus d'ambassadeurs de France en Algérie. Enfin, pas là-bas. Nous souhaitons retrouver le chemin d'un dialogue constructif, calme et exigeant, dit-on, à l'Élysée. De ce côté-ci de la Méditerranée, le constat qu'il faut sortir de la crise la plus grave depuis l'indépendance algérienne, 1962, qui s'est traduite par des expulsions réciproques de diplomates, par le gel de coopération migratoire, économique, sécuritaire, sans oublier de vifs échanges verbaux. C'est tendu depuis un an entre les deux pays, domine dans l'exécutif. Les deux nations sont trop imbriquées par l'histoire et par l'importance de la communauté d'origine algérienne en France pour continuer à se tourner le dos. Ouais. Problème, pour faire avancer une relation, il faut être deux. En matière diplomatique, comme en amour, si je puis me permettre. En choisissant de passer par l'Allemagne pour relâcher 100 salles, hein, le régime algérien adresse un message clair aux Français, à la France, dit le Parisien. Notre contentieux avec vous n'est pas réglé, décrypte Bertrand Badi, qui est un professeur à Sciences Po. Restent trois gros obstacles, selon le géopolitologue. D'abord, l'affaire du Sahara occidental, puisque c'est que la France s'est rapprochée du Maroc sur ce sujet. Maroc et Algérie s'étendent. Macron a reconnu en juillet 2024 la souveraineté marocaine sur ce territoire revendiqué depuis 50 ans par les indépendantistes du Front Polisario, soutenu par Alger, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et Alger n'avale toujours pas ce revirement de Paris sur le sujet. Premier point. Deuxième point, l'internalisation de la question algérienne dans le débat politique français agace fortement Alger. Le départ de Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a certes apaisé un peu les choses, mais elles ont été réenvenimées par le vote de l'Assemblée appelant la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. Une proposition de loi qui venait du Rassemblement national, si je ne dis pas de bêtises. C'est la première fois qu'une proposition de loi du RN ou du FN est votée à l'Assemblée. Et c'était ce texte-là, pour dénoncer les accords franco-algériens de 68. Voilà. Et Alger n'a pas trop apprécié non plus. Troisième point, enfin la relation personnelle, Macron-Tebboune, entre les deux chefs d'État, bonne au départ, et qui s'est détériorée au fil de phrases malheureuses du premier, sur la rente mémorielle de la colonisation, par exemple, que savent exploiter les Algériens en rallumant la flamme nationaliste pour éclipser leurs difficultés internes. C'est le président Macron qui avait dit ça. Il n'avait pas trop été apprécié, ça. Au total, l'Algérie serait la moins pressée des deux parties de voir la relation repartir comme avant, encore que cette relation a toujours été compliquée. D'autant qu'elle estime avoir gagné de nouveaux alliés en réaction à la rupture française, à commencer par l'Allemagne et par l'Italie. Berlin est ainsi l'avocat d'Alger pour la révision plus favorable de son accord d'association avec l'UE, tandis que l'Italie de Giorgia Meloni est désormais sa première partenaire économique, sur l'énergie notamment. Voilà. Bon, manifestement, les relations sont tendues avec la France et l'Algérie, mais on a des voisins européens qui semblent en profiter. Concernant les migrations et la sécurité néanmoins, autre sujet de tension, la relance est dans l'intérêt des deux parties. À l'heure actuelle, confie un préfet, plus aucun laissez-passer consulaire n'est délivré pour l'Algérie, donc pour les ressortissants sous obligation de quitter le territoire français, les OQTF. Tous les préfets de France espèrent qu'un apaisement permettra enfin de traiter les dossiers sécuritaires. De fait, Laurent Nunez, qui a succédé à Retailleau au ministère de l'Intérieur, a été invité par son homologue en Algérie, et il a dit qu'il irait sans doute, peut-être. Ouais. Côté algérien, les attentes sont fortes en matière de visa, mais avertit notre préfet, le traité de 68 fera partie de la corbeille de la mariée. Ce n'est pas impossible à terme, car les Algériens eux-mêmes sont conscients que cet accord de 68, déjà plusieurs fois révisé depuis sa signature, n'est plus adapté, mais il s'applique à faire traîner les choses, comprenez les Algériens, dans l'idée d'humilier, estime Bertrand Badi. Quand on parlait de lutte contre le terrorisme tout à l'heure, hier on a beaucoup parlé de lutte contre le terrorisme et de l'actualité de la menace de cette menace terroriste. Quant à la coopération sécuritaire et du renseignement sur le terrorisme en particulier, Alger a intérêt à redynamiser cette coopération avec l'aggravation de la menace djihadiste au Mali voisin et au-delà, terrain sur lequel les services des deux pays possèdent des compétences uniques. Et au sommet maintenant entre les deux chefs d'État, comment renouer ? Si Macron a remercié Tebboune pour la libération de l'écrivain franco-algérien et s'est dit disponible pour échanger avec son homologue algérien, il ne l'a pas eu au téléphone. Une rencontre serait envisagée en marge du sommet du G20, les 22 et 23 novembre à Johannesburg. Mais rien n'est fixé. Autre signe à surveiller, le retour effectif de Boualem Sansal en France, pas trop vite pour respecter les formes avec Alger, dit-il d'un diplomate, et celui des ambassadeurs des deux pays, le dégel, glaçon après glaçon, c'est joliment écrit. Voilà. Bon, sujet complexe, mais le Parisien arrive à nous rendre ça à peu près clair. Merci Manon pour ton travail. Tu es super. Manon qui vient de rejoindre notre équipe de modération sur TikTok. Le sujet est assez intéressant, en vrai. Je vous lis. Oui, Goodies a. Je pense que Goodies a raison. Pour le coup, le principe des services secrets, c'est que la parole est assez dissociée de la diplomatie officielle. Ce n'est pas parce qu'on ne parle plus avec tel ou tel pays que les services de renseignement n'ont pas de contact, surtout sur les sujets de l'antiterrorisme. Après, quand les relations entre les deux pays sont bonnes, ça facilite peut-être les échanges. Merci, my brown. Bon, je vois que certains prennent le sujet très personnellement pour des raisons, parfois tout simplement de personnel et d'origine. Et donc, je vois des petits débats assez vifs dans le chat côté Twitch, notamment sur la question de la décolonisation. Calmons-nous, les amis. Je vous lis. Ouais. Ok. En tout cas, je suis content de vous donner ces infos. Puis alors, j'aimerais aussi attirer votre attention sur un Français, un journaliste français, un journaliste sportif, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui s'appelle Christophe Glaize et qui est actuellement emprisonné en Algérie. Voilà. Et pour m'être penché longuement sur le sujet, puisque j'ai beaucoup parlé du comité de soutien de ce journaliste. Le gars n'a rien à faire en prison, et c'est juste scandaleux que Christophe Glaize, journaliste sportif, le mec sa passion c'est le foot, notamment le foot africain, soit en prison d'Algérie. Voilà, je dis les choses hyper clairement parce que pour le coup j'ai bossé sur le sujet et je sais de quoi il retourne. Bon. Une bonne nouvelle, a priori, l'espoir renaît autour du journaliste français Christophe Glaize. Dans sa cellule de 10 mètres carrés qu'il partage avec un co-détenu, Christophe Glaize se sent coupé du monde. Ses parents lui ont rendu visite à deux reprises en août au parloir de la prison de Tizi Ouzou. Leur fils tente de garder le moral. Que s'est-il passé? Je vais te raconter. Chaque jour, il peut sortir dans la cour et de temps en temps, il peut consulter la bibliothèque. Les proches de ce journaliste de 36 ans veulent croire en leur chance. Mercredi, le président algérien Tebboune a gracié l'autre Français enfermé dans les prisons algériennes, l'écrivain Boualem Sansal, qui avait été condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Pour l'heure, l'entourage de Christophe Glaize se réfugie dans un silence prudent. Un simple mot de travers peut envenimer le dossier. Collaborateur de SoFoot, magazine de foot, de Society. Le trentenaire s'était rendu sur place pour une série de reportages sur le football algérien dans les années 80. Le gars, c'est sa passion depuis toujours, vous pouvez vérifier, c'est le foot sur le continent africain. Voilà. Le problème, c'est que l'une des personnes qu'il a rencontrées pour faire son reportage, l'un des dirigeants de la jeunesse sportive de Kabylie, avait été, dans le passé, cadre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ce n'était pas le sujet que traitait le journaliste, mais voilà. Qu'Alger classe comme organisation terroriste depuis 2021. Depuis 2021. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que, d'après mes infos, à l'époque où ce dirigeant sportif algérien était membre de ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, à l'époque d'ailleurs, Alger n'avait pas classé ce mouvement comme organisation terroriste. Voilà. Bref, notre reporter français a été arrêté, suspecté d'apologie du terrorisme. Ok. Retenu sous contrôle judiciaire pendant plus d'un an et condamné en juin à 7 ans de prison ferme. Donc, bon, moi j'ai beaucoup bossé sur le sujet parce que j'ai beaucoup parlé avec son comité de soutien en France. Le gars part faire un reportage sur le football algérien des années 80, il prend 7 ans de prison. Voilà, c'est ça l'histoire. Des semaines décisives s'annoncent, où on en est maintenant. Les autorités allemandes avaient demandé à Alger d'accorder un geste humanitaire à Boualem Sansal, âgé de 80 ans, issu d'un cancer. Ce genre d'issue politique ou diplomatique ne peut se débloquer qu'après le prononcé d'une condamnation définitive. Voilà. Pour Christophe Glaise, ce moment de bascule se rapproche. Donc, en gros, le journal nous dit, pour qu'il y ait une initiative diplomatique, il faut que Christophe Glaise soit condamné, en fait, quoi. Son procès en appel doit avoir lieu le 3 décembre. Sa famille et ses amis espèrent que les conditions entourant l'audience seront meilleures qu'en mars dernier. Les deux rives de la Méditerranée, à l'époque, se jetaient des regards noirs. Les relations étaient hyper tendues entre Paris et Alger. Nous sommes en train de prendre des initiatives pour rétablir les échanges dans la discrétion, dans le respect, la considération, a fait savoir l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet. Voilà. Tous nos espoirs portent vers une issue heureuse, une issue de sagesse pour la libération de Christophe Glaise. Un verrou semble avoir sauté. Mercredi, Emmanuel Macron s'est dit disponible pour échanger avec son homologue algérien sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays, a-t-il dit. Voilà. D'autres signaux positifs, des petits signaux, existent. Maître Emmanuel Daoud, l'avocat français du journaliste, a obtenu pour la première fois un visa pour se rendre sur place. Il ne peut pas pour l'heure échanger par téléphone avec son client, mais se tient informé via son confrère algérien, Maître Bakouri, autorisé à le rencontrer, lui, sans limite de visite. Les deux avocats, les deux pénalistes ont déjà annoncé qu'ils plaideraient l'erreur administrative. Le reporter entré en Algérie avec un visa touristique n'avait pas signalé son activité professionnelle. Ce qui est un classique. Dans certains pays, il y a des pays où la liberté de la presse est très relative, voilà. Plus encore que dans notre pays à nous, qui n'est pas déjà parfait. Mais il y a des pays où, quand tu passes les frontières en disant que tu es journaliste, waouh, c'est très compliqué. Je le sais parce que je l'ai vécu. Hein. À tel point que moi, quand je voyage pour du tourisme, il y a des pays où je ne mets pas journaliste. Hein. À l'époque où j'étais 100% journaliste avec une carte de presse, je ne mettais jamais journaliste. Hein. C'était le bon interrogatoire direct, l'épluchage de passeport, voilà. Donc je mettais autre chose. Ça, c'est un grand classique. Donc, je ne suis pas très surpris que ce reporter n'ait pas indiqué qu'il venait pour un reportage, parce qu'il devait savoir sans doute que ça allait tout compliquer, quoi. Sur le foot. Obtenir un sésame pour la presse en cette période de troubles diplomatiques était presque impossible. Voilà. En gros, en 10 ans qu'il était journaliste, il aurait fallu qu'il obtienne l'autorisation. Dis-nous la vérité, parce que tout à l'heure, il y a Abdel Ghani qui nous dit « Mais moi, je suis algérien, tu ne racontes pas toute la vérité. » Il nous dit ça depuis tout à l'heure, mais il ne nous dit pas quelle est la vérité. Abdel Ghani a deux doigts de nous dire que Christophe Glaise était un espion de la DGSE ou je sais pas quoi. Dis-nous ta vérité là, qu'on rigole un peu. Dis-nous un petit peu. Dis-nous que ce journaliste qui depuis le début de sa carrière professionnelle n'écrit que sur le football africain est en fait un espion. Vas-y, vas-y, j'attends les infos avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'impatience. Obtenir un sésame pour la presse, donc quasiment impossible. En cette période de troubles diplomatiques, était presque impossible dans ce dossier. Depuis le début, le droit ne pèse jamais seul. Alors j'attends les infos exclusives de notre ami là. S'il vous plaît. J'attends. Merci bébé Fox. Merci Malo. Merci princesse Fiona. Alors, quelles sont les infos que nous n'avons pas sur le dossier Christophe Glaise. J'attends. Source cristalline. Source t'inquiète. On attend, hein. Après, peut-être que c'est long, j'attends. Je pense que j'ai raté le message. Je lis. Je suis sûr que la personne va nous répondre. Joli. Salut Plixix. J'ai eu le temps de lire ton historique depuis tout à l'heure. À bientôt. Bon. Bah, on n'aura pas l'explication. Bon, si jamais le message de la personne nous expliquant quelles sont les informations que nous n'avons pas sur ce qu'aurait réellement fait Christophe Glaize arrive, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'en vrai, peut-être que on a raté des infos. Voilà. Mais là, je ne vois pas le message. Donc voilà, vous me le dites, voilà. Et je le porterai à votre connaissance, parce que peut-être qu'il nous manque des infos intéressantes, quoi. Vous me le dites. À épingler, non, à épingler, c'est une décision que les modérateurs et moi prenons. On n'évince pas n'importe quel message, mais on le lira par contre. Ok. On n'a toujours pas le message? Bon, ok. Bon, vous me le dites. Vous me dites s'il y a du nouveau, ok? Bon, en tout cas, on va suivre avec attention la situation de ce journaliste français, Christophe Glaize, journaliste sportif incarcéré depuis plus d'un an en Algérie, pour une raison qui ne tient pas à la route. Voilà. On attend ce procès en appel. Voilà, on pense à lui, on pense à sa famille, accessoirement, voilà, et on en reparlera. Et on attend avec impatience les informations qui motiveraient cette détention d'un an. On les attend toujours dans le chat d'ailleurs. Il ne s'agit pas de faire un one guy versus un viewer. Il s'agit surtout à un moment de ne pas laisser n'importe quoi raconter n'importe qui. N'importe qui. On ne peut pas laisser n'importe qui raconter n'importe quoi. C'est un peu l'idée. Donc c'est pas juste du théâtre. C'est juste qu'à un moment, on est sur un stream d'infos et on essaye de faire la différence entre une info carrée, sourcée, un peu travaillée et des trucs balancés comme ça, mais sans matos derrière, quoi. Ok? Bon, à suivre. Il n'y a toujours pas le message d'ailleurs. Bon, tant pis. Encore un sujet léger, encore un sujet chill. Au contraire, c'est un sujet extrêmement tabou, dont il est très compliqué de parler en Corse notamment. Voilà. C'est la mafia, le système mafieux, les organisations mafieuses en Corse. Voilà. C'est la une de la Croix. Alors ça, merci la Croix de parler de ce sujet. Alors, attendez, on est à 1h16, 1h16. Et on parle de la mafia en Corse. Le fléau de notre île, dit Diesel dans le chat, qui doit vivre là-bas. Ça, j'ai hâte de lire ce dossier. Merci Ezekiel. Voilà. La mafia en Corse. Alors, hop, je vous le mets aussi là. Ok, vous l'avez dans le titre du stream. Et TikTok, je vous le mets aussi. J'ai mis la flèche? J'ai mis la flèche. Attention, ça va se corser. Draculos, on valide. Salut Ezekiel, merci pour ton message. À l'instant. La mafia en Corse, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelles sont les infos de la Croix sur le sujet? Ça part d'une mobilisation, je crois, d'une manifestation qui arrive. Ok, on y est. Pour le coup, c'est un sujet que je connais pas très bien. J'ai lu des choses ces dernières années, décennies, mais je suis pas un grand spécialiste du sujet. Il se trouve que je prends mes vacances en Corse au mois de juillet depuis presque une dizaine d'années. Mais c'est pas un truc dont on parle beaucoup là-bas. Corse, le réveil anti-mafia. Des collectifs citoyens se lancent dans un combat pour dénoncer l'emprise mafieuse et la corruption et pour restaurer la confiance. Fougiron, on en a parlé déjà tout à l'heure. Une coordination d'associations appelle à manifester demain, samedi 15 novembre, à Ajaccio et Bastia contre les menaces que font peser sur la Corse des groupes qualifiés de mafieux. Des citoyens travaillent sur place à éveiller les consciences sur ce sujet. Lisons l'article, je pense que ça va être très intéressant. Massimo, sur la route qui mène d'Ajaccio à Cargèse, à un village de Corse du Sud, ce prénom, Maxime en français, Massimo, est inscrit en noir sur les parapets en béton. Depuis quelques jours, il est entouré d'affiches aux lettres rouges. Assassini, mafiosi, fora. Pas la peine de maîtriser le corse pour traduire le message. Assassin, mafieux, dehors. Qui invite à manifester à Ajaccio et Bastia demain, samedi 15 novembre. Maxime Sousini avait 36 ans lorsqu'il a été assassiné en septembre 2019 sur une plage de Cargèse où il tenait une paillote. L'affaire n'a pas été élucidée, mais ce militant nationaliste était connu pour son engagement contre la spéculation foncière et le trafic de drogue. Quelques jours plus tard, certains de ses proches participaient à la création du collectif Massimo Sousini pour dénoncer un crime qu'il considère être le résultat de l'emprise mafieuse sur l'île et pas seulement une criminalité classique. Jean Toussaint Placenzotti, l'oncle du jeune homme, faisait partie de ce premier cercle. Cet enseignant de langue corse, aujourd'hui âgé de 70 ans et retraité, on est toujours le porte-parole. Au départ, on nous avait dit qu'on tiendrait 3 mois, qu'on était dans l'émotion, raconte-t-il dans une pâtisserie d'Ajaccio, mais on est encore là. Il se bat pour connaître la vérité, quoi. Dans le même temps, un autre collectif, Mafia Noa Vitaye, la mafia non, la vie oui, est né à l'initiative de personnalités issues de la société civile. Lui aussi existe toujours, c'est un combat difficile, relaie l'un de ses créateurs, Léo Battesti. C'est sûr, tout le monde ne veut pas dénoncer la mafia, mais on fait avancer les choses, on peut contribuer à apaiser la Corse. Je sais que ce qu'on devient quand on tombe dans un système de violence. Ancien élu territorial, ce septuagénaire a été un des cadres du Front de Libération Nationale de la Corse, le FLNC. Il s'en est éloigné au début des années 90, critiquant les dérives d'un mouvement qui allait se déchirer ensuite dans une guerre intestine. On avait raison de défendre les intérêts de cette terre, explique-t-il, mais on aurait dû plutôt créer une armée de citoyens, d'avocats, de spécialistes. C'est ce qu'ont réalisé les deux collectifs, désormais intégrés dans une coordination anti-mafia et 8 autres associations, notamment actives dans la défense de l'environnement. Désolé, bien voilà. Leur responsable appelle à manifester samedi, comme il l'avait déjà fait en mars dernier, après la mort d'une étudiante de 19 ans, tuée alors qu'elle n'était pas la vraie cible. Entre 1500 et 3000 personnes avaient défilé à l'époque à Ajaccio. Il y aura plus de monde cette fois, prédit Jean Toussaint Placenzotti. Le niveau de prise de conscience augmente en Corse. C'est incontestable. Leur première victoire a été d'imposer le thème « mafia » dans ce débat public. Pour clairement désigner la menace, les élus étaient dans le déni, on a gagné cette bataille sémantique, assure Léo Battesti. De fait, l'Assemblée de Corse, après des travaux auxquels ont été associés les collectifs, a voté plusieurs textes où il est question de dérive ou de pratiques mafieuses. Le préfet de l'époque, Jérôme Filippini, a lui-même parlé publiquement de mafia dans un mégaphone en montant sur un camion lors de la manifestation du 8 mars. Donc, on parlerait aujourd'hui plus facilement de mafia en Corse qu'on ne l'a fait dans le passé. Le haut fonctionnaire a aussi assisté à un colloque organisé par le collectif Massimo Sousini. Oh, tu sais qu'Ubanisto c'est pareil sur le chat Twitch. Hein. Ah, pardon, je pause. Nous avons un petit moment après, la réponse d'Abdel Ghani qui nous disait tout à l'heure tu mens Samuel, tu ne dis pas la vérité sur l'affaire Christophe Glaise, le journaliste français qui a arrêté et incarcéré depuis plus d'un an en Algérie, et il vient de nous répondre. Donc j'avais promis de vous lire la réponse. Désolé, je regarde ton stream depuis mon taf, force à toi Abdel Ghani. Je ne pouvais pas argumenter tout de suite. Christophe a été condamné pour apologie de terrorisme à cause des personnes qu'il a côtoyées en Algérie, le président du club JSK. Alors ça, on l'a lu tout à l'heure, hein, Abdel Ghani. Ça, c'est le motif de la condamnation. C'est ce qu'on a lu dans l'article de La Croix. C'est pour ça qu'il est en prison, puis il n'a pas déclaré qu'il était journaliste, et s'il n'a rien à se reprocher, il l'aurait dit. Donc ça, on l'a aussi lu, c'était aussi dans l'article. Je pense que Abdel Ghani n'a pas écouté... Abdel Ghani travaille, donc il n'a pas pu tout écouter et il n'a pas écouté. Ces deux choses-là, on les a évoquées. On a évoqué la raison de la condamnation par la justice algérienne. Et on a évoqué aussi le fait que le journaliste n'avait pas, au moment de son arrivée sur le territoire algérien, signifié qu'il était journaliste, puisque au regard des relations entre les deux pays, il est quasiment impossible d'obtenir un visa, enfin un accord pour entrer sur le territoire algérien quand tu déclares être journaliste. Je le sais, puisque moi j'ai voyagé en tant que journaliste, et je peux te dire que c'est impossible. Voilà. Encore plus quand les relations entre les deux pays sont tendues à ce point. Donc quand tu es journaliste et que tu veux faire un reportage sur le football algérien des années 80, comme c'était le cas ici, eh bien quand tu arrives sur le sol, tu dis pas aux autorités du pays que tu es les journalistes, sinon tu ne peux pas rentrer, tout simplement. Voilà. C'est ce qui se... Parce que la liberté de la presse est un peu compliquée. Donc tout ça, on l'a dit tout à l'heure, tu nous le redis, c'est très très bien, mais si tu nous avais écouté un tout petit peu plus, tu te serais rendu compte que ces infos-là, on les a déjà données. Bon, merci pour l'échange, mais tu nous apprends rien qu'on ne savait déjà sur le sujet. Voilà. Mais en tout cas, on a lu ton message. Merci Samaels. Pardon pour cette petite pause. Après, il est en train de travailler, donc peut-être qu'il ne peut pas non plus écouter tout le temps. Mais donc, on y reviendra en tout cas parce que ce sujet, il est important. Alors, revenons à la mafia en Corse. Le haut fonctionnaire, donc c'est le préfet, a aussi organisé un colloque organisé par le collectif, assisté à un colloque, pardon, organisé par le collectif Massimo Susini, durant lequel les procureurs d'Ajaccio et de Bastia ont pris la parole, qu'ont-ils dit? On soutient la justice, il faut que les gens aient à nouveau confiance en elle. Insiste Josette Dal Ava Santucci, membre de Mafia Noa Vita Vitae. À 83 ans, cette ancienne professeure de médecine parisienne, entrée sur son île natale, s'est investie contre ce qu'elle décrit comme une maladie. Quand on parle de mafia, on parle de pieuvre. Je préfère l'image du cancer et des métastases. J'ai connu l'époque où on ne soignait pas les cancers, c'est un médecin. Voilà. Aujourd'hui, on en soigne 50%. Si on faisait pareil avec la mafia, on serait sauvé. Les deux collectifs. Donc anti-mafia en Corse, sont d'ailleurs mobilisés pour faire porter par des parlementaires de l'île insulaire des amendements visant à durcir la législation. Leur démarche a abouti au renforcement des dispositions concernant la confiscation des biens criminels. Parallèlement, leurs membres travaillent au projet de rectorat, de Corse d'intégrer une sensibilisation à la mafia dans les programmes d'instruction civique. C'est symbolique, mais c'est important, on lutte aussi contre les mythes. Souligne Jean-François Plazenzotti. Ces Corses qui refusent la mafia ont élargi leur cercle en intégrant une plateforme citoyenne qui a été créée en 2021. La structure est présidée par Yvon Robert, ancien référent régional de l'association anticorruption Anticor, qui est engagé depuis 90 contre les dérives de certains élus de l'île. L'important, dit-il, c'est de s'inscrire dans la durée. La société corse à accepter certaines choses comme étant presque normales. Face à cela, on fait notre part de travail pour éveiller les consciences. C'est assez intéressant. Anticor a notamment soutenu David Brugioni, maire du village de Century, de 2014 à 2020. Durant son mandat, l'élu local a subi menaces, intimidations, qui sont allées jusqu'à des tirs sur sa maison. En 2017, j'ai trois filles, elles sont traumatisées, témoigne-t-il. Si ça n'est pas un système mafieux, c'est quoi alors? Depuis, il a perdu la mairie aux élections de 2020, mais pas sa combativité. Son prédécesseur, condamné en 2017 pour détournement de fonds publics, l'a été à nouveau en 2025 pour faux usage de faux. Aujourd'hui, David Brugioni est devenu le référent d'Anticor en Corse, c'est une des chevilles ouvrières de la manifestation du 15 novembre de demain. Diesel me dit, ils ont situé un agriculteur cette année. Salut Fab Daddy. Comme d'autres, il a beaucoup regardé ce qui se passait en Italie, où la société civile s'est mobilisée de longue date contre la mafia. Certains ont participé à des voyages d'études organisés par l'association Crime Halt, créée par le criminologue Fabrice Rizzoli. La mafia est une criminalité collective, dit ce dernier. Face à elle, il faut être groupé. Ces collectifs font un travail exceptionnel en Corse, ils sont courageux. Ah, Diesel dans le chat qui vit sur l'île nous disait, ils ont aussi tué un agriculteur cette année. Le 17 mars dernier, Pierre Alessandri, secrétaire général du syndicat agricole Via Campagnola, la branche locale de la Confédération paysanne, a été assassiné sur son exploitation en Corse du Sud. 9 jours plus tôt, cet agriculteur engagé contre la spéculation foncière avait défilé dans les rues d'Ajaccio. Sa mort a poussé son syndicat à rejoindre la coordination anti-mafia dans son appel à manifester samedi. Alors, tout à l'heure, dans le chat, les gens me disaient, mais comment caractériser les activités mafieuses en Corse, en fait? En Corse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ben, il semble qu'il y ait un éclairage. Voilà. Des bandes criminelles aux méthodes mafieuses. Lisons peut-être ce petit encadré. Le terme de mafia renvoie à une forme de criminalité organisée définie par le droit pénal italien. Il implique notamment l'utilisation de l'intimidation pour contrôler les activités économiques légales. Si on voulait donner une définition de la mafia, ça pourrait être celle-ci. En 2024, 18 homicides et 16 tentatives d'homicide ont été répertoriés en Corse, une île de 360 000 habitants. Aucun territoire métropolitain ne connaît un taux de mort violente aussi élevé, rapporté à la population. Mais il ne s'agit pas simplement de règlement de compte dans une région historiquement marquée par le banditisme. Les enquêteurs ont aussi été confrontés ces dernières années au décès par balle d'un haut fonctionnaire, d'un président de chambre de commerce, d'un avocat, de maire, voilà, ou d'un juge consulaire, un de ces chefs d'entreprise chargés de régler les litiges commerciaux. Ok, j'ai un joli. J'ai quelqu'un qui arrive à sortir un propos antisémite alors qu'on est en train de parler de la Corse. Félicitations. Voilà, ce sera ton dernier message dans ce chat. Le pseudo, c'est Partisan. C'est pas très surprenant. Hop, ciao. Évidemment, pas de ça ici. Alors, la mafia. Donc, on a parlé des assassinats, s'y ajoutent aussi des séries d'incendies criminels de biens professionnels, comme les bateaux d'excursion pour les touristes. Cette accumulation de faits laisse à penser que la Corse n'est pas seulement soumise à des classiques voyous, merci Resno, mais à une activité criminelle visant l'économie légale et les institutions. Exactement ce qu'a connu l'Italie avec la mafia. Il y a Clem Rouge, c'est intéressant, parce que c'est son premier message qui nous dit, étant de Gisonaccia, Corse Est, ici on entend beaucoup, surtout des personnes âgées, que la mafia n'existe plus, que ce ne sont que des gangsters maintenant. Clem Rouge nous dit, il y a beaucoup de déni et d'aveux de défaite. Donc cette accumulation de faits laisse à penser que la Corse n'est pas seulement soumise à des classiques voyous, je pense que Clem Rouge, ça va te parler, mais à une activité criminelle visant l'économie légale et les institutions. Exactement ce qu'a connu l'Italie avec la mafia. Depuis 1982, cette forme de crime organisé y est définie juridiquement via le délit d'association mafieuse, décrit comme l'action de ceux qui, se prévalant de la force intimidatrice, commettent des délits, établissent un contrôle direct ou indirect sur les activités économiques. Faut-il employer cette terminologie à propos des gangs corses? C'est ça le débat. Salut Johan. Voilà. Pensez à ton grand-père. Qui sont développés sur une île dont l'économie a été bouleversée par l'argent du tourisme et des commandes publiques. Les autorités françaises ont progressivement apporté une réponse affirmative à cette question. Oui, on peut parler de mafia en Corse. En premier lieu, le ministre de la Justice, Darmanin, qui a annoncé cette année la création d'un pôle judiciaire spécialisé en Corse. Il y a quand même une spécificité de la délinquance, de la criminalité organisée en Corse par rapport à celle du continent, dit le procureur de la République à Ajaccio. C'est une criminalité à tendance mafieuse, puisqu'elle a pour objectif de maintenir la peur sur la population. Quand on tue un juge consulaire sur une terrasse de café en pleine ville, au vu de tout le monde, on fait passer un message. Aux yeux du magistrat, la criminalité corse diffère toutefois de la mafia italienne par son organisation plus clanique et plus horizontale. Il existerait, c'est marrant, quelqu'un me le disait dans le chat tout à l'heure, c'est ce même chiffre qui revient, 20 bandes criminelles en Corse, alors selon une note du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée, Document dont l'existence a été révélée par Le Monde. Merci, Homo Eli. Pour le criminologue Stéphane Quéré, qui est un enseignant qui est un chercheur, cet éclatement des forces fait qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une mafia, hein, puisqu'il y a 20 bandes, 20 familles peut-être. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer les risques, analyse-t-il. Ce grand banditisme exerce une pression continue sur l'économie, notamment sur le marché des déchets. Voilà. Un secteur d'ailleurs largement investi par les mafieux italiens. Alors là, ce dossier, je le trouve... Pardon, il était un petit peu long à lire. Mais parfois, il faut prendre le temps. Et là, moi, j'ai appris plein de choses sur ce que serait ce phénomène mafieux en Corse, quoi. C'est pas mal, hein. Je ne serai pas Stream for Humanity, Kinox, parce que je n'ai pas été invité. En revanche, je soutiens à 2000% l'initiative d'Amine et tous ceux qui sont associés, notamment Baguera et Tatiana qui étaient avec nous mercredi soir. GG à cette mobilisation, en vrai. Il s'est passé quelque chose en particulier pour qu'un tel dossier sorte. Bah, il y a une manifestation demain en Corse, deux manifs des collectifs anti-mafia. C'est ça l'actu. La question est de savoir à quel point ces 20 bandes sont liées. Très bonne question, Tom Keito. Ouais, Mirk, j'adore la croix, moi. Pour comprendre les origines de ce phénomène, je conseille la série Omerta sur Canal, me dit le maire. La Croix, c'est payant, mais c'est un, oui, c'est un journal qu'il faut acheter, ouais. Sur le site lacroix.fr, tu vas avoir des articles qui vont être en accès gratuit, puis d'autres en accès payant, quoi. Un contenu de qualité, forcément, il doit se payer. Sinon, tu peux pas, tu peux pas. Le travail des journalistes derrière, il n'est pas rémunéré, quoi. C'est normal. Ouais, tu nous auras en replay El Roro del Paris. Mais on est à la moitié de la revue de presse, il reste plein de choses, hein. Je préfère la bannière, je valide la blague moins pot. Ok. Bon, sujet suivant. Allez, let's go. On est sur Airbnb. Voilà. Et l'impact d'Airbnb sur l'offre locative en France et l'impact d'Airbnb sur la crise du logement en France, ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, dont je parle assez souvent, quoi. Hop, le sommaire. On est à combien, là? 1h36, ok, let's go. On a passé 20 minutes sur la mafia corse, très bien, 1h36. Après, je fais un peu de sport, après j'ai un rendez-vous, après je vous retrouve ce soir pour un petit peu de call-off, je pense. Ok, je vous mets la petite flèche. Hop. Airbnb au plus haut en France, malgré les tentatives pour limiter en fait l'activité Airbnb en France, ça ne marche pas. Airbnb continue à se développer, c'est ça l'info, je vous résume à mort. Voilà, je vous le mets aussi dans le titre. Voilà. Airbnb au plus haut. Voilà. Je vous le mets dans le titre du stream aussi, comme ça les gens qui arrivent sur le live, ils savent exactement ce dont on est en train de parler. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde comme ça. Et je vous mets la flèche sur TikTok également aussi. Airbnb, pas prêt de s'éteindre. Qu'est-ce que tu vas faire comme sport? Je vais courir, je cours, je suis un coureur. J'aime courir. Après quoi, je sais pas, mais j'aime courir. Sommaire. Et après, il y a plein de sujets, hein, encore. Il y a Trump, l'affaire Epstein. Hein. Il y a le congé de naissance de 2 mois en France, ça c'est nouveau. Et puis on parlera du dernier Call of, justement. Non, pas de jupons. Non. Je ne suis pas un coureur de jupons. Je suis un coureur de kilomètres. Je ne suis pas invité de Dracula parce que je ne suis pas un proche d'Amine, c'est tout. Ah non, mais y a rien à chercher. Non, c'est juste que Amine, il invite des gens qu'il connaît. On s'est jamais croisé avec Amine IRL, on s'est jamais vu. On s'est écrit 2-3 fois, on a une bonne relation. Mais il invite un certain nombre de personnes. Je suis pas dans son entourage proche. Il y a zéro souci, quoi. Et on ne cherchait pas une raison cachée à cette non-invitation, quoi. C'est comme Zera, il invite les gens qu'il connaît, dont il est un peu proche. Tu vois, tu peux pas inviter tout le monde, quoi. Alors, Airbnb. La régulation n'a pas enrayé la machine Airbnb. Tu vois, il y a Marie Bulle qui écrit dans le chat à propos d'une commune que je connais très bien. Airbnb, c'est vraiment une plaie. Là où je vis, à Quiberon, qui est pour moi un des plus beaux endroits de la Terre, les résidences secondaires sont une chose, mais ceux qui louent sur cette plateforme ankylosent la vie locale d'une force 2 ans pour trouver un logement. Dans certaines zones, et pas seulement ces zones en tension, notamment les zones touristiques, hein, pour les gens, pour se loger, c'est un enfer. C'est un enfer. Hein, parce que il y a une énorme partie de l'offre locative qui devrait servir à loger les gens qui vivent, qui travaillent, qui ont des familles, qui n'est proposée que la location touristique, notamment de courte durée type Airbnb. Voilà. Et alors c'est le cas dans les zones touristiques, mais pas seulement. Et c'est un enfer. Et le problème, c'est qu'en France, on a commencé à prendre conscience de ça, comme d'autres pays d'ailleurs. On a commencé à prendre des mesures, mais le constat des Échos, c'est un article dans les Échos ce matin, c'est que la régulation n'a pas enrayé la machine Airbnb. La plateforme américaine a enregistré une croissance à un chiffre de ses annonces en France sur un an. Abritel et Le Bon Coin ne voient pas non plus d'impact négatif de la loi à ce stade sur leur attractivité. Parce que c'est un phénomène, c'est pas que Airbnb, quoi. Oui, on en a parlé, regarde Churchill, regarde le sommaire, on en a parlé au début, France-Algérie. On en a parlé tout à l'heure. Airbnb poursuit donc son expansion en France. La France est le deuxième marché au monde d'Airbnb après les États-Unis. Donc c'est vraiment un sujet. On ne parle pas d'Airbnb comme ça parce que ça me fait plaisir. La France est le deuxième marché mondial d'Airbnb après les États-Unis. Voilà. Alors, il y a un an pourtant, il y a eu une adoption d'une loi en France visant à, je cite, « renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale ». La plateforme américaine de location touristique entre particuliers, présente dans 4 communes sur 5 dans notre pays, indique avoir enregistré sur les 12 derniers mois une hausse à un chiffre du nombre d'annonces. Certes, les maires commencent tout juste à s'emparer du nouvel arsenal mis à leur disposition, mais les Français, voilà. Évidemment, du côté d'Airbnb, on se défend. La parole à Clément Eulery, directeur général d'Airbnb France-Belgique. Il dit quoi ? Ah oui, mais les Français ont besoin de gagner du pouvoir d'achat. Souvent, les gens qui soutiennent Airbnb, c'est les gens qui disent « Ah oui, mais moi, je loue mon logement sur Airbnb, quand même, ça fait du bien, ça met du beurre dans les épinards. » Voilà. Du coup, Airbnb reprend cet argument. Voilà. Sur Airbnb, le revenu brut médian annuel des loueurs était, par exemple, 3 800 € en 2024, ce qui n'est pas rien. Ce qui sous-tend notre croissance dans les villes qui ont beaucoup réglementé sur les résidences secondaires, ce sont les résidences principales, dit le monsieur d'Airbnb, voilà, tout en estimant que la location de certaines résidences secondaires se fait désormais sous le manteau. Voilà. Nous avions constaté une baisse importante. J'ai déjà dit, à mon sens, il est inutile de voir Airbnb comme un ennemi ou un fléau, mais plutôt comme un complément de l'offre d'hébergement. Les offres d'appartements sur la plateforme sont principalement des résidences principales qui ne seront jamais louées en longue durée. Ça, c'est ce que dit Airbnb. Moi, c'est pas ce que je constate dans mon quotidien. Je vis dans une ville qui s'appelle Paris, qui est une ville qui est extrêmement touristique, vous le savez. Voilà. Et je vois littéralement autour de moi, y compris dans l'immeuble où je suis, ici, des appartements qui sont loués non-stop, toute l'année, en Airbnb, et qui ne servent qu'à ça. Hein. Ce n'est pas une résidence principale qui est louée 2-3 jours, 2-3 semaines par an, tranquillou. C'est un appart qui, des apparts, autour de moi j'en ai partout, qui sont loués toute l'année en Airbnb. Parce que ça rapporte plus de sous. Parce que le rendement, il est plus important. Voilà. Et, bon alors, moi, que les gens se fassent de l'argent, c'est pas un problème. Mais faisant ça, ces appartements ne sont pas loués à des gens qui viennent, qui veulent vivre à Paris, qui veulent travailler à Paris, qui veulent élever des familles éventuellement à Paris, hein, uniquement les touristes. Donc ce logement qui loge un touriste, à l'année, il ne loge pas quelqu'un qui veut vivre et travailler dans cette ville. Le souci, c'est celui-ci. Voilà. Le souci, c'est celui-ci. Il est tout simple, en fait. Hein. Voilà. Alors, il suffit de voir le revenu brut médian annuel de loueurs. Le revenu brut médian annuel des loueurs de Airbnb en France, c'est 3 800 € par an. Hein. On ne parle pas de quelques jours de location d'un, d'une résidence principale. Hein. Le chiffre confirme ça en plus. Je vous lis l'article. Enfin, je vous lis pas tout, je vous lis ce qui est le plus important. Donc, en fait, l'article nous dit qu'il y a des mesures qui ont été prises, dont les maires peuvent s'emparer au plan local pour empêcher, limiter le phénomène Airbnb, mais que pour l'instant, c'est pas très très efficace, quoi. Merci, Master Caillou. Alors, le patron d'Airbnb, lui, il renvoie la patate chaude en disant plutôt que de nous attaquer, vous feriez mieux de vous attaquer aux 3 millions de logements vacants en France. Il y a 3 millions de logements en France qui sont vides, qui sont pas loués. Il y a Ashkari qui nous dit dans le Cotentin, Sam, les maires ont décidé de faire la chasse aux logements Airbnb. Et je crois qu'à Saint-Malo, il y a eu des choses aussi. Et aux maisons secondaires, ça fait déjà plus de 2 ans. Et la région fait place aux résidents locaux pour le nouveau bassin d'emploi en devenir. Dans ma résidence, 5 appartements à mon niveau, 4 Airbnb, insupportable. Oui, parce qu'en vrai, c'est aussi des nuisances. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez d'avoir des touristes avec des valises qui débarquent tous les 2 jours, des gens différents dans votre immeuble, ça pose aussi une question de sécurité avec un accès, un digicode qui est donné à plein de gens. Ça peut créer des nuisances aussi. Parfois, vous avez des touristes un peu indélicats qui vont pas très bien se comporter, notamment en termes de bruit, parce qu'ils sont là 2 jours, ils n'en ont rien à foutre, quoi. C'est pas des voisins, quoi. Et ouais. Donc sécurité, bruit, etc. C'est des vraies nuisances, en fait, hein. Quand c'est pas de la prostitution, il y en aura à raison, ça existe aussi. Pourquoi nous n'y arrivons pas comme alors que New York a complètement éradiqué la chose, quasiment plus aucun Airbnb là-bas. Alors l'article ne parle pas de New York, mais c'est intéressant ce que tu dis. Très compliqué comme question. Qui n'a pas envie d'avoir un revenu passif en louant? Après, il y a sûrement moyen de faire des choses dans les villes principales, je suis d'accord. En fait, il n'est pas question ici d'interdire aux propriétaires d'un logement principal de louer de temps en temps, quelques jours, quelques semaines par an, leur logement pour se faire un peu de sous. Mais en fait, l'idée, c'est d'empêcher le business de logements qui ne sont pas loués de temps en temps, mais qui sont loués toute l'année en mode Airbnb. Tu vois, c'est 2 choses très différentes. C'est pas si compliqué, en fait, hein. C'est pas si compliqué, en fait, la distinction. Voilà. Alors, Game Over a raison. Ça pose la question d'un arbitrage entre le droit d'entreprendre, le droit de louer son bien, finalement, comme on l'entend, tu as raison, et le droit à pouvoir se loger. Ce sont 2 droits qui s'opposent. La réponse ne peut pas être évidente et fera forcément des mécontents. Pour le coup, Game Over, ton analyse, elle est très juste. Et dans le chat, ceux qui pencheront pour le droit d'entreprendre, la défense du droit d'entreprendre, bah, vont dire laissez faire les gens d'Airbnb comme ils veulent. Et ceux qui vont dire le droit de se loger est plus important dans notre pays aujourd'hui, on a une vraie crise de mal logement chez nous, hein, avec des logements qui sont trop, trop peu nombreux et trop chers, bah ils vont dire vous êtes gentil avec le droit d'entreprendre, mais à un moment il faut le limiter. Voilà, s'il y avait un Airbnb dans mon ancien immeuble, me dit Clem, une horreur, que des jeunes qui le louaient, des nuisances sonores tous les week-ends. D'ailleurs, il y a une loi qui a été votée en décembre dernier, qui s'applique depuis janvier, je crois. Très récemment, avant, dans un immeuble, la copropriété ne pouvait interdire les logements de type Airbnb que avec un vote à l'unanimité. À l'unanimité. Il fallait que tous les copropriétaires soient d'accord. Évidemment, vous imaginez bien que le copropriétaire qui louait son appart sur Airbnb à l'année, il n'allait pas voter pour l'interdiction. Depuis la nouvelle loi qui est entrée en vigueur au début de l'année, maintenant c'est une majorité des deux tiers. Donc la loi évolue. Donc les copropriétés sont un peu plus armées qu'elles ne l'étaient pour s'opposer à ça, quoi. Après tout, les copropriétaires, ils ont quand même le droit d'organiser la vie de leur immeuble comme ils le veulent, quoi. En même temps, quand on est propriétaire, on fait ce qu'on veut. Ouais, sauf que ta liberté de propriétaire, Géso, c'est la définition de la liberté, s'arrête ou commence ta liberté des autres. Et tes voisins, ils ont propriétaires, ils ont aussi le droit de profiter, de jouir de leur logement tranquillement. Eh ouais. C'est marrant cette définition de la liberté totale, absolue, ultra-libérale. Ta liberté s'arrête ou commence celle des autres. On est vraiment sur ce débat ici, en fait. T'imagines le mec qui débarque en réunion de copro et il dit « Moi, je suis propriétaire, je fais ce que je veux. » Tu vas te faire bien voir des autres propriétaires. L'enfer. Ouais, je sais que c'est... Ouais, le petit fleur dit « Le problème de cette nouvelle loi, c'est la jurisprudence qui semble mettre à mal cette possibilité pour les copros. » Ouais, je sais. Géso, répète, on fait ce qu'on veut de son appartement. La personne n'a pas bien compris l'histoire de la liberté, là. On va pas répéter, à un moment, ça sert à rien. Ouais, mais c'est un débat qui intéresse au plus haut niveau du droit. Hein. Koala Dangereux nous dit, il y a quelques jours, la Cour de cassation s'est prononcée sur le terme d'occupation bourgeoise sur une affaire occupant un voisin à sa copro. Il y a toute une jurisprudence qui est en train de s'installer là-dessus, quoi. Je suis gestionnaire de copro, me dit Zoé. Et les propriétaires comme cela, c'est-à-dire les copropriétaires qui disent « je fais ce que je veux de mon logement parce que c'est mon logement », sont de plus en plus nombreux. C'est intéressant, je trouve. C'est très intéressant. Voilà. Alfred Le Pingouin nous dit personnellement « moi j'ai déménagé à cause des Airbnb. Trop de passages de gens qui s'en foutaient, bruit, tard, etc. » personne qui sonnait chez nous pour rentrer quand ils perdaient leurs clés, on a fini par partir et maintenant l'appartement que nous avons quitté est un Airbnb. Voilà, vous voyez bien qu'il y a un sujet quand même, hein. Vous voyez bien qu'il y a un sujet. Je vous lis, hein, pardon, je suis pas en train de dormir. Non, Gabs, désolé, je participe pas à Stream for Humanity. Je trouve l'événement formidable, mais je n'ai pas été invité. Voilà. Bon, intéressant, hein. Certains propriétaires préfèrent peut-être louer un Airbnb pour éviter les loyers impayés. Bon, ça change rien, hein, Airbnb, tu sais, il y a des propriétaires, hélas, qui ont vu des gens arriver pour un Airbnb, changer les serrures et rester dans l'appart, quoi. Il y a des cas actuellement en France, quoi. Donc ça va pas te prémunir de ce genre de comportement, quoi. Non, le vrai truc, c'est que c'est plus rentable. Ah, Drolliax dit, il n'y a pas de trêve hivernale pour les Airbnb. C'est pas impossible, ça. Mais le vrai truc, c'est la rentabilité, quoi. Léla dit les loyers impayés, c'est pas si fréquent que ça en plus, juste tu te fais plus d'argent en Airbnb. Ouais. On parle de la crise du logement en France. Marceau nous dit, moi perso, je suis ingénieur. Bon, donc je suppose que le revenu est OK, quoi. Je n'arrive pas à déménager pour me rapprocher du travail. Les apparts dans mes moyens sont soit des studios de 15-20 mètres carrés, soit des apparts loin de Paris, où je travaille, puisque la personne travaille à Paris. Et comme il y a très peu d'annonces, mais beaucoup de candidats, hein, le parc locatif parisien est un marché extrêmement en tension. Quand vous êtes propriétaire d'un petit appart, vous le mettez en location, vous avez littéralement 20 à 30 réponses dans la journée. Dans la journée. Hein. Et donc Marceau nous dit, et comme il y a très peu d'annonces, mais beaucoup de candidats, et je n'ai qu'un seul salaire, c'est la galère. Voilà. La réalité, c'est ça. Qualité de vivre aussi à Paris, parfois c'est juste pour le boulot, hein. C'est pas trop, t'as pas trop le choix. Moi, je suis pas venu vivre à Paris en 1989 parce que je rêvais de vivre à Paris. Je suis venu vivre à Paris parce que c'était mes études et après le travail il était là, quoi. Dans les médias, t'as plus de taf à Paris que dans la Creuse, quoi. J'ai un ami qui a visité un appartement hier, me dit à Karine, ils étaient 30 candidats pour un 20 mètres carrés. À Mossir, je suis ingénieur à Paris, je confirme, je me heurte au même problème. À Bordeaux, me dit Nadine, même galère pour la location. Voilà. Hippotou nous dit, Hello, je vis à Barcelone et les loyers sont devenus inabordables en grande partie à cause de Airbnb. Les locaux ne peuvent plus se loger. Les appartements sont achetés et refaits à la va-vite pour devenir des Airbnb en surcoût. La moyenne par nuit est à plus de 200 euros pour des apparts en mauvais état. Barcelone n'arrête pas d'augmenter. Le maire a décidé de stopper tout cela en 2028. Quand on cherchait un nouvel appart à Paris, Money Moulbit, on trouvait les offres qui avaient moins de 1 heure avec déjà 10 personnes sur le dossier. Voilà, Cachirosan, la même, hein, plus de 10 ans à Paris pour le travail. T'as pas forcément le choix, hein. Non, mais j'aime bien la Creuse, moi. À La Réunion, ça devient très chaud aussi, me dit Richard Ware. Paris en station balnéaire en Normandie, me dit Zimex. Paris à Dublin, me dit Neverno. 3 000 euros pour 2 chambres dans le centre. Je gagne bien ma vie à Paris, me dit Ozuna. Impossible de déménager dans un 2 pièces facilement sans s'éloigner. Merci Brad Pitt. Il y a Brad Pitt qui vient de sub. Ça va, Brad? Parfois, il y a des faux Brad Pitt sur Internet qui te demandent de l'argent. Et là, c'est le vrai Brad Pitt qui vient de nous donner de l'argent. On vit dans le meilleur des mondes quand même. Merci Brad. How are you, my friend? L'Irlande, encore pire qu'en France, énorme crise du logement, me dit l'Inuméa. Merci Torino. Très peu de locations disponibles en Irlande, avec en plus des tarifs exorbitants, y compris en zone plus rurale. Une galère à Caen. Hein. Budget de 1 000 euros pour le loyer, tout est pris d'assaut tout le temps, j'ai toujours pas d'appart. En Savoie, le nombre de sortants et entrants sont équivalents, la tension en location augmente, la moyenne de nombre de personnes par maison continue de diminuer. Intéressant. Oui, il y a un vrai sujet, hein. Allez, on enchaîne. Waouh! L'affaire Epstein. Donald Trump est-il impliqué dans l'affaire Epstein? C'est un sujet dont on parle beaucoup aux États-Unis en ce moment et qui est en train de plomber la popularité du président américain. Je vous lis ça dans l'opinion. 1h57. Trump impliqué dans l'affaire Epstein, point d'interrogation, bien sûr. 1h57. Voilà. Je vous change les titres. Hop. Point d'interrogation, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui. Hop, 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 hop. Le titre échangé dans le stream TikTok, je vous mets la flèche, let's go. C'est tout, c'est là. Hop. Hop, hop. Hop. Trump impliqué dans l'affaire Epstein. Ok. Merci tout ce qu'on prend pour le raid. Merci pour le raid, c'est adorable. Merci beaucoup. On l'avait déjà échangé, je crois. Hein. Je vous lis la présentation de la chaîne. Bravo pour l'embauche chez le Gorafi. Ah oui, j'ai vu. Je vous la relis parce qu'elle est sympa. Donc, tout ce qu'on prend, collé, c'est la chaîne d'un docteur en astrochimie et vulgarisateur scientifique. On essaye d'apprendre des trucs, même si la plupart du temps, on ne comprend rien. Je me rappelle très bien cette chaîne. Je vous la recommande. Ami Modo, n'hésitez pas à épingler la chaîne de notre ami Tout ce qu'on prend. Voilà, pour que nous n'hésitions pas à la suivre. Merci pour ton message. Vous arrivez à un moment plutôt intéressant, puisque nous allons parler de l'éventuelle implication du président américain Donald Trump dans l'affaire Epstein. Qu'est pas ça? Il y a Speaky Vin qui me dit, on parlait de la nature humaine et de pourquoi l'humanité s'est aussi construite dans l'entraide et la solidarité. En vrai, c'est cool. Le Congrès américain, mesdames et messieurs, prévoit de voter la publication des documents liés au pédocriminel Epstein, qui fut un temps proche du président américain. L'affaire Epstein, article dans l'opinion de ce jour, cette crise qui revient en pleine face de Trump. Un vote aura lieu la semaine prochaine à la Chambre des représentants américaine. Pour presser le département de la justice américain à publier la totalité des documents d'enquête liés à l'ancien financier condamné pour trafic sexuel qui s'est suicidé en prison en 2019. C'est comme si à l'Assemblée nationale, il y avait un vote en France pour demander au ministère de la Justice de publier tous les documents d'enquête liés à un scandale, liés à un scandale sexuel pour voir si le président serait impliqué ou pas. Alors, quelqu'un demande c'est quoi l'affaire Epstein? On dit, aux États-Unis, je crois qu'ils disent l'affaire Epstein. Orage mordu répond, enfin, on prononce comme on veut, hein, un pédocriminel qui a organisé un trafic de personnes non adultes. Alors, l'histoire officielle, c'est qu'il s'est suicidé en prison, Orage Mordu dit, il a été assassiné en prison avant d'être jugé. Une liste comporte tous les autres participants. Voilà. Et ce dont on va parler. Qu'est-ce que tu veux dire, Elon le retour 74? T'as quelque chose à dire sur le sujet? N'hésite pas. Lisons. Lauren Boebert, élue républicaine de la Chambre des représentants, donc on est dans le camp du président Trump, hein, a été tirée mercredi à l'intérieur de la Situation Room. Dans cette salle de crise, où les présidents gèrent habituellement des menaces de sécurité nationale, on se trouvait le ministre de la Justice, son adjoint, le directeur du FBI, la crise en question, une pétition parlementaire qui forcerait le passage au vote d'un texte exigeant que le département de la Justice dévoile. Pas de souci, Elon, le retour, c'est toi qui décides. Dévoile tous les documents de l'affaire Jeffrey Epstein. Cet épisode surprenant montre jusqu'où l'administration Trump est prête à aller pour faire taire les rumeurs. Non, 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 non. Le suicide, assassinat, c'est pas avéré, trisystémique, c'est ce que certains affirment. La thèse, enfin, l'explication officielle, c'est toujours le suicide en prison. Après, il y a beaucoup de personnes qui, comme tu le vois dans le chat, qui remettent en question cette thèse officielle. Cet épisode surprenant montre jusqu'où l'administration Trump est prête à aller pour faire taire les rumeurs, conspirations et accusations liées aux pédocriminels, un temps ami du président, ça c'est avéré, qui s'est suicidé en 2019. Mercredi, en pleine résolution du shutdown budgétaire, Donald Trump a passé la journée à interpeller les républicains qui ont signé la pétition lancé il y a plusieurs semaines par deux représentants, un républicain d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de républicains qui sont derrière ça. C'est le camp Trump pourtant. Et Ro Khanna, qui est démocrate. Quelqu'un me dit, l'article est écrit à charge. Pour l'instant, je vois rien à charge. Pour l'instant, je vois juste le rappel des faits. la mobilisation d'élus républicains, le fait que Trump et Epstein étaient amis avant, il y a des photos, même Trump il le dit, et la demande que tout soit mis au clair sur cette affaire. Pour l'instant, il n'y a pas de prise de parti de l'article. C'est juste le rappel des faits, quoi. Mais ces efforts ont échoué. Lauren Boebert, Nancy Mace et Marjorie Taylor Greene ont refusé de retirer leur signature. Trump a quand même demandé à des élus républicains de retirer leur signature. Ça aussi, c'est des faits. De cette demande que le dossier soit rendu public. Au nom de la transparence et de la défense des victimes de Jeffrey Epstein. Le compte étant bon, le speaker républicain, Mike Johnson, a donc annoncé qu'un vote aura bien lieu la semaine prochaine, selon le média Politico. Plusieurs représentants du GOP. Le GOP, je crois que c'est Great Old Party. Je crois que c'est le parti républicain. Serait déjà prêt à soutenir le texte, même si son sort demeure incertain au Sénat. C'est tout ce que la Maison-Blanche redoutait, que l'affaire Epstein lui revienne en pleine figure. Ah, c'est grand, c'est pas great, c'est grand. Right. Okay. En juillet, elle avait déjà failli faire imploser le mouvement MAGA, Make America Great Again, le mouvement de Trump. Pam Bondi et Kash Patel avait en effet affirmé qu'il n'y avait pas de raison de dévoiler le contenu de l'enquête après avoir promis de le faire quelques mois plus tôt. C'est ça le problème, c'est que du côté républicain et notamment côté Trump, on avait dit pendant la campagne que après l'élection, eh bien, on publierait la fameuse liste des clients haut placés d'Epstein. Voilà. Et après l'élection, ben, les mêmes personnes ont dit ah ben non, en fait. Voilà. Cette liste n'existe pas. Ah. Bon, alors du coup, vous avez même des électeurs républicains, des électeurs MAGA qui disent vous vous êtes foutu de notre gueule en vrai là. Un peu. Plusieurs soutiens Trumpistes s'étaient alors sentis trompés par leur chef, apprenant par le biais des médias de nouveaux détails sur son amitié avec Jeffrey Epstein. Or, mercredi, de nouvelles révélations sont venues en rajouter une couche. Les démocrates ont publié d'anciens courriels du criminel mentionnant le président, dont un dans lequel Epstein écrivait, bien sûr qu'il sait pour les filles, c'est-à-dire les mineurs victimes d'abus sexuels. Les scoops de l'été, comme ces emails, ne contiennent aucune preuve irréfutable, incriminant directement le président, Trump. La véritable crise liée à Jeffrey Epstein et la raison pour laquelle Trump n'arrive pas à s'en débarrasser tient moins à sa potentielle complicité qu'à son refus d'être transparent. S'il n'a rien à cacher, pourquoi milite-t-il pour enterrer la pétition? Pourquoi refuse-t-il que son administration publie le contenu de l'enquête? Autant de questions que se posent les 77% d'Américains qui souhaitent en savoir plus, selon un sondage de l'Institut Marist. Donald Trump ne souhaite pas y répondre et, par réflexe, reste sur la défensive. Lui qui a l'habitude de parler avec la presse de tout et de rien a cette fois refusé les questions. À la Maison-Blanche, personne ne veut lui demander ce qui se passe car il se met tout simplement en colère, a confié une source aux médias Axios. Mais pendant qu'il peste dans son coin, y compris auprès des Républicains, sa cote de popularité continue de chuter, y compris auprès des Républicains. Aujourd'hui, 68% des Républicains se disent satisfaits de son mandat. C'est 13 points de moins qu'en mars. Voilà. Donc cette affaire est en train. Oui, mais chez les Républicains, pas chez les France Travail. Chez les Républicains, pas chez les Américains. Vas-y, Cindy Balance. Cindy a des infos sur Trump. Pourquoi vous ne faites pas votre travail de journaliste? Cindy, balance les infos que tu as sur Trump. Balance les infos que tu as sur Trump. Je sens que tu as les infos à nous dire sur Trump qui n'a rien à voir avec l'affaire Epstein. Cindy, on t'écoute. Je n'ai pas accès à l'historique sur TikTok, donc peut-être que tu l'as déjà expliqué, mais je ne l'ai pas vu. Vas-y, on t'attend. Moi, je suis preneur de toutes les infos. Alors, le Yacht Nature a une hypothèse. Trump a fait campagne sur le fait de rendre publique cette liste. À mon avis, il n'est pas dedans, mais il a dû apprendre que plusieurs républicains y sont, de quoi faire un sacré scandale. Cindy, on t'attend, hein, Cindy. Non, parce que non, parce que, en fait, le chat, c'est un outil incroyable où on peut se dire des choses, où on peut s'interpeller, où on peut échanger, on peut dire voilà, moi je suis pas d'accord, voici les infos dont je dispose, je pense que ton analyse n'est pas tout à fait la bonne, quoi. Mais une fois qu'on a dit que c'est pas la bonne, après il faut argumenter. Sinon, ça sert à rien. Donc je mets pas la pression, hein, mais normalement, il faut dire les choses, quoi. Ah, Cindy, je fais allusion à votre travail quotidien devant les écrans télé. Mais je ne travaille plus à la télé. Mais depuis des années, je fais plus d'infos à la télé. Cindy, je ne te suis pas. Attends, ah non, attends. Non, non, la question de Cindy, c'est peut-être pourquoi j'ai arrêté de travailler à la télé en journalisme. Attends, 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 attends. C'était peut-être pas sur l'affaire Epstein. Je pense que Cindy me demande peut-être pourquoi je suis plus journaliste à la télé. Bah, c'est juste que je préfère être sur Internet maintenant. Pardon, Cindy, ta question était peut-être celle-là. Alors, je continue à faire question pour un champion, mais c'est pas du journalisme, bien sûr. Le week-end, chill. Mais pour répondre à ta question, Cindy, ah non, c'était pas la question de Cindy. C'était vous, les journalistes, vous avez failli. Ah non, non, non. Ah non, non, c'était autre chose. Ouais, ok. Ok, Cindy. Je ne suis pas journaliste à la télé. Bon, voilà. Fin du débat. Attends, à un moment, tu essayais de te dire, peut-être que la question était vraiment. Puis en fait, non, ça ne va pas du tout. Puis alors, vous, les journalistes, tu m'excuseras, je ne suis pas les journalistes. Hein. Merci, ça va. Chacun sa croix, hein. Je vous lis sur l'affaire Epstein. Alors, j'entends aussi l'argument de Churchill. Putain, je viens de comprendre la blague du pseudo Chur, Chill et Churchill. Salut René. Putain. Putain, mais j'adore ce pseudo. Churchill. Churchill. Et qui nous dit, Saint Thomas croyait ce qu'il voyait. Les conspirationnistes, eux, croient ce qu'ils ne voient pas. Oui, Epstein s'est bien suicidé, hein, nous dis-tu. Et non, Trump n'est pas responsable de tous les maux sur Terre, mais c'est tellement plus facile pour la presse d'avoir le bouc émissaire idéal pour tout et n'importe quoi gerbant. Voilà. J'entends, et j'adore ton pseudo. Merci, Pragmatwitch. Très joli pseudo aussi. Merci à un moment donné. Merci Rendog. C'est hyper intéressant. Cindy. Ah! On a un nouveau message de Cindy. Ok. Hormis Mediapart, vous êtes tous des journalistes à la botte de l'ultralibéralisme. Alors tu as raison. Mediapart est un excellent média. Pour le coup, j'y suis abonné. Je le lis. Tu as raison. Je pense qu'il y a des journalistes en France qui vont être un peu hors Mediapart, qui vont être un peu tristes de te lire, Cindy, ce matin, de se savoir la botte de l'ultralibéralisme. Je pense à mes confrères de l'Humanité, par exemple. Mais Cindy, ça fait plaisir que tu lises Mediapart, parce que c'est un très bon média. Alors, bon, voilà pour l'affaire Epstein. Quelque chose me dit qu'on va en reparler un petit peu. La semaine prochaine, peut-être. Ah, une bonne nouvelle. La création d'un congé de naissance de deux. Je sais, Marie Bulle, mais moi, c'est tous les jours, je suis habitué. De 2 mois en France. En plus de ce qui existait jusque-là. Bon, j'espère que ça va bien s'appliquer. Parce que parfois, c'est pas parce que c'est voté à l'Assemblée que. Hein? Alors, on y va. Quelle heure? 2h12, 2h13, let's go. Ah putain, j'ai un bouton sur le cuir chevelu que je viens de me percer, ça m'a fait si mal. Oh! Hamspoon dans le chat, ça va faire mal, ça. Quelle idée aussi. Va faire mal ça, non?
2h13. Ok, la flèche.
Un congé de naissance de 2 mois. C'est pas beau ça? Kezako, qu'est-ce que c'est ces histoires? On va voir. C'est dans quoi? C'est dans le monde.
Alors, attends, pop. Pop. Voilà.
Un congé de naissance de 2 mois. Ok, très bien. Le titre du stream, Bamos. Pitié, je mange. Bah oui, mais attends, il y a des gens qui ont des soucis quand même. Un bouton sur le crâne, ça doit faire mal. Attends, attends. Quelle idée de manger à 12h39? Alors, hop, je vous mets la flèche sur TikTok. Un congé de naissance de 2 mois. Voilà. C'est parti. Hop là. Alors. Tant qu'il ne l'a pas son bouton au tchoul. C'est quoi un tchoul? Le tchoul. Tchoul. Apprenons des mots sur Internet. C'est quoi un tchoul? Tant qu'il ne l'a pas au tchoul. Le tchoul. La tchol. Là, c'est la tchol. Et c'est quoi la tchol? C'est quoi la tchol? C'est un rappeur? C'est un chanteur? Papi Chulo? C'est nordiste? C'est une maladie? C'est les fesses. Ah, le tchoul, c'est les fesses, rien à voir avec la tchol. Ok. C'est la bite, je sais pas. Ok, je vois qu'il y a un débat très intéressant, je ne sais pas ce que c'est la tchoul. Moi, je vais vous parler de ça. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui me disait, ma compagne est enceinte de 7 mois, j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Ben, lisons, lisons, ça a l'air... Papi, papi, papi chulo, papi, 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 vengami. J'adore. J'adore cette chanson. Papi chulo, papi, papi, papi chulo, papi, 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 vengami. Je suis allé voir récemment ce qu'était devenue cette chanteuse. Et en fait, elle a un peu disparu. Je n'ai pas réussi à savoir ce qu'elle est devenue. Donc les députés votent la création d'un congé de naissance de 2 mois. Le dispositif qui s'ajoutera au congé de maternité, de paternité existant, donc c'est en plus, a été adopté en première lecture mercredi. Attention, c'est pas parce que c'est voté que... Non, Gator d'homme, je crois que c'est une fausse rumeur, je suis allé vérifier. C'est ce que tu dis. Je crois qu'elle n'est pas morte d'overdose, je crois qu'elle n'est pas morte. J'ai trouvé des infos là-dessus. Adopté en première lecture. Adopté, voter, ça ne veut pas dire que ça va s'appliquer. Parfois, c'est plus compliqué, on va voir, quoi. Merci René. Remède à la natalité déclinante. Mesure d'égalité entre les femmes et les hommes. Dispositif en faveur du bien-être des nourrissons. Prévention de la dépression du postpartum. Pardon, mais c'est magnifique. Ce sont ces enjeux parmi d'autres qui ont été évoqués sur les bancs de l'Assemblée mercredi, lors de l'examen du projet de loi de financement de la Sécu. Instaurant un nouveau congé de naissance. De quoi s'agit-il? L'article 42, qui prévoit sa création, a été adopté en première lecture avec 288 voix pour, 15 contre. Voilà. Les députés n'ont en revanche pas eu le temps d'achever l'examen de l'ensemble du texte qui part au Sénat sans avoir été soumis au vote pour le reste du texte, quoi. À ce stade de la navette parlementaire, à l'issue plus qu'incertaine, c'est pour ça que je vous demande d'être extrêmement prudent avec cette information, il n'est pas sûr que cette loi finisse par s'appliquer. Enfin, parfois, il y a de très belles lois comme ça et qui ne s'appliquent pas. Il est prévu, donc, si jamais ça s'applique, hein, que les parents pourront prendre tout ou partie de ce congé de naissance, dont la durée est fixée à 2 mois pour chacun des parents, dans les 9 mois suivant l'accouchement. Voilà. Le montant de cette nouvelle prestation sera fixé par décret en Conseil d'État, mais le gouvernement a indiqué, bon on verra, que le congé sera indemnisé à hauteur de 70% du salaire net, hein, le premier mois et 60% le second. OK? Le dispositif s'ajoute au congé maternité-paternité existant, donc c'est en plus, et coexistera dans un premier temps avec le congé parental qui peut être pris jusqu'aux 3 ans de l'enfant, mais dont la faible rémunération autour de 400 euros constitue un frein pour les familles. Alors certains disent, ah ouais, c'est pas assez. Ouais, mais enfin, c'est en plus de ce qu'il y avait avant. Donc c'est fou que tout de suite on critique. Les gars, c'est... Bien sûr, ça pourrait être 200% du salaire, en vrai, hein, ce serait super. Mais ça n'existait pas déjà. Vous pourriez déjà commencer par dire, c'est pas assez, mais c'est bien parce que c'est mieux qu'avant. Peut-être, non, je sais pas. Peut-être, non. Je sais pas. Le coût de la mesure est évalué à 600 millions d'euros. Voilà. En fin de montée de charge, a estimé le ministre de la Santé. Promise en janvier 2024 par Macron lors de son discours sur le réarmement démographique, hein, le fameux, l'idée d'un nouveau congé, plus court et mieux indemnisé que le congé parental, a été défendue avec des modalités variées, dont plusieurs travaux récents. Au-delà de ses effets incertains sur la relance de la natalité, c'est pas sûr que ça relance la natalité en France, hein. La natalité, c'est le produit d'une équation extrêmement complexe. Mon fils a 10 ans, trop tard pour en profiter? Oui. Oui. Est-ce que c'est rétroactif, c'est pour un ami? Non. Non. Voilà, ma crevette dit, je pense que c'est plus intéressant pour les gens qui envisageaient le congé parental, qui était vraiment très mal rémunéré. Quoi. Hein. Donc, le Monde nous rappelle qu'il y a peu de chances que ça relance la natalité, mais ça vise à apporter une réponse à une réalité persistante. L'arrivée d'un enfant est source d'inégalité entre hommes et femmes, avec un impact sur la carrière professionnelle des mères et une répartition en leur défaveur des tâches domestiques au sein du couple. Aujourd'hui, ce sont ainsi à plus de 95% les mères, les mamans qui se saisissent du congé parental, faute d'une offre suffisante d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans. Cette pénalité parentale, comme l'a souligné notamment une députée Renaissance, Marie-Pierre Rixin, contribue à creuser l'écart professionnel entre les hommes et les femmes. C'est marrant, parce qu'il y a quelques jours, on s'est penché notamment sur l'impact de la maternité sur la vie professionnelle des femmes. Et en France, c'est encore une catastrophe. Le souhait d'une répartition plus égalitaire de cette responsabilité, avec l'idée que les pères ne soient plus maintenus dans le rôle de parents auxiliaires qu'ils endossent encore trop souvent, y compris malgré eux, s'est exprimé lors des débats. Manifestement, veut inciter les pères à prendre davantage ce congé pour aider. Quoi. En dépit d'un relatif consensus, des différences se sont faites entendre sur les modalités. On rentre un petit peu dans le détail. Ah, des amendements ont tenté d'instaurer une dimension obligatoire de ce congé, c'est-à-dire que les gens auraient été obligés, père et mère, de prendre ce congé. Ils ont été rejetés, comme la tentative du Rassemblement national de restreindre ce congé aux personnes ayant la nationalité française. En revanche, contre l'avis du gouvernement et de la rapporteuse de la Commission des affaires sociales, les députés ont voté en faveur de son fractionnement en 2 parties d'un mois pour donner de la souplesse aux parents. Bon, on va voir comment ça va s'appliquer. Alors, on va voir comment ça va s'appliquer. Parce que le texte, il part en navette parlementaire. Parce que là, il part au Sénat. Donc, on va voir ce qui revient du Sénat. On va voir le texte qui va être adopté au final. Donc, les gens, je vois qu'il y a des gens qui attendent des enfants dans le chat ou dont des proches attendent des enfants. Ne leur dites rien pour l'instant. Parce qu'il y a une forte chance qu'il ne se passe rien, en fait. Hein. Ouais. Je suis papa, j'ai pris un mois de congé parental partiel dans la crèche, mon petit a 5 mois, peut-être que je pourrais en bénéficier. Oui, parce que ça, c'est valable, ce serait valable conditionnel dans les 9 mois suivant l'accouchement. Ouais. Comment ça se passe en cas d'allaitement? Tu prends l'enfant, tu le mets contre ton sein. Je ne suis pas un spécialiste, mais... C'est très bien. Et il paraît que c'est très très bon pour la santé des nourrissons, d'ailleurs. Les anticorps, tout ça. Alors, je ne suis pas un spécialiste du sujet, moi. Non, je déconne, Marie-Claire. Comment dire, tu veux dire, est-ce qu'il y a un impact sur le congé quand tu allaites? Ça, je ne sais pas du tout. Non, c'est très important, je crois, l'allaitement pour quand la femme est en capacité de le faire. Quand la femme est en capacité de le faire. Parce que c'est pas toujours le cas. Mais c'est très très bon pour l'enfant. Du coup, je suis convaincu, me dit Comar, je vais faire un gauche, je reviens. À tout à l'heure, Comar. Il te faut combien? 2 minutes? Tu nous dis. Ah, quand elle allaite, la femme a plus de congés? Alors ça, Sandrine, je savais pas. Attends. Bon, c'est bizarre parce qu'il faudrait prouver que la. Faudrait que la maman prouve qu'elle allaite. Non, non, je pense que c'est une info fake news. Pardon, je n'y crois pas du tout. Bah, il faudrait que la maman prouve qu'elle allaite. Comment elle fait ça? C'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Un congé allaitement. Je crois pas, hein. Il y a un aménagement des horaires quand on allaite. C'est un congé maladie? Quoi, hein? C'est pas une maladie. C'est possible dans certaines boîtes? D'accord. On me dit que ça existe dans certaines sociétés. Il y a des modalités spécifiques, mais c'est pas un congé. On me dit que c'est pas un congé. Congé allaitement. Il existe. Tout à fait. Ok. Ah, c'est intéressant. Ok. Attendez, c'est génial ça. Congé allaitement, mais c'est. Mais j'apprends un truc, moi. Allaitement. Oui. Amélie. Alors, dans cette entreprise, il y a des trucs. Clairement, je vous montre ce que je trouve sur Internet. C'est pas un truc pour tout le monde, quoi. TikTok, je vous le mets. Le gâteau, tac, 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 voilà. Regardez. Amélie, c'est la sécu. Il n'existe pas de congé spécifique pour allaitement. Voilà. Si vous allaitez votre bébé, votre congé post-natal ne pourra pas être prolongé pour ce motif. Donc ça, d'accord. Mais... Il y a des trucs dans les entreprises. Service public. Il n'existe pas de congé spécifique pour qu'une salariée puisse allaiter son enfant après son congé maternité. Je trouvais ça bizarre aussi. Mais des dispositions conventionnelles, conventions collectives, donc dans certaines boîtes, certaines branches, il y a des trucs. Ça dépend de la convention collective. Qui a droit à un congé d'allaitement? Mutualité chrétienne, là, par exemple. Chaque jour de travail, vous avez le droit à 2 heures de pause d'allaitement si vous prestez au moins 4 heures par jour. C'est une coquille, ça? C'est presté? Je pense que c'est une coquille. Pour le papa aussi? Non, 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 le papa, il presse rien du tout, là. Donc, il y a des trucs, d'accord. Congé allaitement. Ouais, c'est dans des branches. Ok. Ce que dit. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Alors, ce que dit la loi française, pas de congé pour l'allaitement. La loi ne reconnaît pas spécifiquement le congé pour allaitement. Il a existé de 1950 à 75, mais il était supprimé. Ok. En revanche, la jeune mère qui allaite, la mère qui allaite, on n'est pas obligé, la mère, elle n'est pas obligée d'être jeune. C'est quoi ce texte, la jeune mère? La mère, elle n'est pas obligée d'être jeune pour avoir un enfant. A des droits spécifiques. Dans le code du travail, une pause d'1 heure par jour pour tirer son lait ou allaiter, la pause doit être prise en 2 fois, l'horaire doit être négocié avec l'employeur. Quelles entreprises donnent droit au congé d'allaitement à jeune mère dans le sens de mère récemment? Ah, d'accord, ok. Ah, ok, pardon. Ok, nouvellement mère, ok. Même vieille, quand on devient maman, on est jeune maman. Oh, c'est mignon. Oh, c'est chou. Ah, j'adore. Mais à quel moment... Non, excusez-moi, j'ai... Non, j'avais dit une connerie. D'accord, ok. Donc, des conventions collectives favorables à... Pardon, j'ai une connerie. Oui, exactement. Comme dit Xavoul, toutes les femmes sont jeunes et belles. Exactement. Voilà. Point fin du débat. Exactement. Voilà, il y a des conventions collectives, ouais. Par exemple, la convention, tiens, pour ceux que ça intéresse, la Convention nationale du travail mécanique du bois, des scieries et du négoce du bois précise qu'après un minimum d'un an de présence dans l'entreprise à scier du bois, hein, au moment de leur départ, des facilités pourraient être accordées aux femmes allaitant leur enfant, soit sous forme de congé sans solde d'une durée de 12 mois au maximum. Sans solde. Ils sont généreux. Non, non, t'as le droit de partir. Il y a un congé? Oui, oui. D'un an. Waouh. Sans solde. Ok. Pas payé, quoi. Soit sous forme d'aménagement de l'horaire personnel de l'intéressé. Ouais, c'est super généreux, hein. Ah, dans le cinéma. Alors ça, c'est pour les bûcherons. Dans le cinéma, les femmes souhaitant prolonger leur congé maternité peuvent obtenir un congé sans solde. Sans solde, ouais, c'est super. C'est génial. Ah, le congé allaitement. Eurosport, la chaîne de télé. Congé supplémentaire de 4 semaines pour allaitement à l'issue du congé maternité. Donc ça existe dans des boîtes. Sur présentation du certificat médical, quand même. Voilà. Décès et environnement, jour de télétravail supplémentaire. Ouais, il y a des trucs. Mais c'est vraiment par boîte, par branche. Bah, c'est hyper intéressant, j'ai appris un truc là. Merci beaucoup. Vous êtes des gouttes. Vous êtes des champions en vrai. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Waouh. Samuel, je remets mon message parce que c'est fascinant, me dit Eckhart Prune. Une étude a révélé que les lèvres en contact avec le mamelon, on parle des enfants, hein, créent une communication entre la mère et l'enfant, ce qui change la composition du lait pour répondre aux besoins du nourrisson. C'est fascinant. C'est fascinant. Ah, c'est magique. Ouais. Oui, je précise parce que je vous connais dans le chat. Je vous connais. Bon! Bon, avec Call of Duty, par exemple, le lait s'adapte à un prématuré. C'est assez fascinant. Penses-tu vraiment que cette mesure peut faire augmenter le taux de natalité? Non, Elisabeth. Les gens qui se penchent sur le sujet savent en fait que ce qui influe sur la natalité, c'est plein de choses. C'est plein de choses. C'est le niveau de vie, c'est le coût de l'immobilier, c'est le niveau des salaires, c'est la manière dont la société est accueillante ou pas accueillante pour l'enfant et pour sa famille. C'est l'impact sur la carrière des parents, et notamment de la maman. C'est la foi en l'avenir. C'est le regard qu'on porte sur le monde dans lequel on vit. C'est plein de choses, en fait. C'est le résultat de tout ça. Voilà. Donc, mais c'est un élément, mais parmi plein d'autres éléments. Voilà. Bientôt le congé accouplement pour relancer la démo. En vrai, moi président en 2027, je vous le dis, moi président 2027, je pense que c'est une très bonne idée, je proposerai un congé accouplement pour relancer la démographie. Attention, congé accouplement sans capote, hein. Sinon c'est trop facile. Hein. C'est vraiment pour réarmer la France. Hein. Voilà. Et proportionnel à la durée réellement consacrée. Hein. Parce que, voilà, genre, ça dure 5 minutes, tu prends pas 2 jours. Hein. Donc, voilà. Donc, hein, pour éviter une dérive des finances publiques, évidemment, ce dispositif sera extrêmement encadré. Et donc, il faudra des preuves. Bon, on verra comment on gère la notion de preuve. Mais bon, je pense qu'une petite vidéo, vite fait, visage flouté, pourrait suffire. Ouais. 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 Obligation de pointer au début à la fin de l'acte. Non, quand même pas. Autant faire un jour férié. Ah oui, tiens, c'est pas bête ça. C'est pas la durée qui compte, c'est le plaisir donné, me dit Rouge sang et moi ça m'arrange. Voilà. Alors, je n'osais pas aller jusque-là. Il y a Yann qui dit, et après, on rebouche le trou de la sécu avec une monétisation sur OnlyFans. Je vois où tu veux en venir. Comme les visages seraient floutés sur les vidéos, pour prouver hein, le droit au congé de procréation, on pourrait l'appeler comme ça, effectivement, la tentation serait grande de mettre les vidéos au visage flouté sur TikTok, sur un compte gouvernemental. Hein, gouvernement point... point comment on pourrait l'appeler, moi réarmement .fr avec une monétisation qui viendrait renflouer les caisses de l'État. Mais ça part très loin, là. Ça part très loin. Après, je pense qu'il faut faire preuve aussi d'imagination et d'originalité. Hein. Nous sommes face à une dette grandissante, une charge de la dette qui devient vraiment excessive pour notre pays. Je pense qu'il faudra inventer de nouvelles sources de recettes. Hein? À étudier, à étudier. Hein? Voilà. Je crois qu'il faut, je crois qu'il faut s'enlever les œillères. Je crois que nous sommes un peu trop, voilà. Ouais, on voit toutes ces questions avec des œillères, on est sur des schémas anciens. À un moment, vivons à notre époque. Hein? Hein? Après tout, si ton joli corps en action se retrouve sur Internet, visage masqué, pour non seulement repeupler la France, mais en plus remplir les caisses de l'État, hein, où est le mal? Qui te reconnaîtra? Alors peut-être si t'es très tatoué. Je pense à certaines personnes très tatouées, avec des tatouages très spécifiques. Là, il pourrait y avoir... voilà. Donc là, peut-être qu'il faudrait faire attention à ça. On l'appellerait la taxe Sopalin. Oula! Ok. Imagine, tu reconnais tes parents qui t'ont... Ok, on va arrêter, ça va trop loin. Allez, Call of Duty. Ah. Évidemment, quand je vais lancer ma candidature pour la présidentielle en 2027, tous mes opposants politiques iront se taper mes streams. Voilà. Là, je mettrais ça en sum only, du coup, ça fera la thune. Et puis, ils iront chercher tous ces passages-là. Ouais, le mec est fou, le mec est problématique. Et je vous avais prévenu, le mec est fou, il est problématique. Il a prévu un congé procréation, ce malade. Il veut mettre les vidéos sur Internet pour faire de la thunasse. Le mec est cinglé. C'est le fou du bus originel. Vous savez quoi? Eh ben, on a rien à foutre. Ça nous fera bien rire. C'est ça qui va être drôle. Rien à carrer. On va bien rire surtout, oui. Et pourtant, ça peut tellement fonctionner. Bah, écoutez, vous n'avez qu'à voter pour moi en 2027, on verra bien. Hein? Voilà. Alors, le dernier sujet, Call of Duty. Hop là. Hop. Ok. La flèche sur TikTok. Fais gaffe au replay sur YouTube. Mais on s'en fout. On est des malades ici. On s'en fout. Let's go. C'est parti. Ah oui, très bien. Arch Carrier dit le nouveau Call of Duty, c'est mieux avec ce sens de guillemets. Ouais. Je comprends. Parce que certains disent que ce nouveau Call of Duty n'est pas vraiment un nouveau Call of Duty. On est dans le Parisien qui consacre quand même un article au sujet que je trouve plutôt cool. Ouais. Il faudrait lui trouver un chargé de com, il va traîner trop de casseroles pour la présidentielle. C'est trop tard, Rose, c'est trop tard. On a testé le nouveau Call of Duty, nous dit le Parisien. Il sort ce vendredi, donc c'est aujourd'hui. J'ai vu certains amis y jouer dès hier soir minuit, un mois après son concurrent Battlefield 6. On a joué à la bêta ici, Call of Duty. Black Ops 7, c'est ça? On a joué à la bêta. J'ai bien aimé. On a joué à Battlefield 6 aussi. Voilà. On est mauvais sur les deux, mais on adore les FPS ici. On adore tuer des gens. Dans les jeux vidéo. Lisons l'article. Qui remportera la première bataille ou peut-être la guerre du succès auprès des joueurs? Alors que le jeu Battlefield 6 s'offre un départ canon avec plus de 10 millions de ventes depuis sa sortie. Waouh! Le 10 octobre, c'est au tour de Call of Duty d'entrer dans l'arène. Champion de la catégorie des jeux de tir à la première personne, les FPS, les First Person Shooter, avec un total de plus de 500 millions de ventes depuis sa naissance en 2003, et à raison d'une sortie par an, il pourrait avoir l'impression d'arriver en terrain déjà conquis avec son nouvel opus Black Ops 7, commercialisé ce vendredi sur console et PC autour de 60 euros. Bon, il y a un monde où je l'achète ce soir. Mais le leader devra peut-être jouer davantage la carte de la modestie. D'abord parce que entre l'épisode précédent Black Ops 6 sorti il y a tout juste un an et celui-ci, l'impression de nouveauté est assez faible. Quelqu'un me disait dans le chat nouveau Call of quoi, nouveau. Voilà. Lazareth me dit mauvaise fenêtre de sortie après Battlefield et après Ark Raiders. L'impression de nouveauté est assez faible. Voilà, ça sent le réchauffer, me dit Remake dans le chat. Voilà. Nous avons pu le constater en nous sentant bizarrement très à l'aise dès les premières minutes de plongée dans le mode multijoueur à 6 contre 6 en ligne que nous avons pu essayer. Que les aficionados se rassurent cependant, le fun. Le fun, c'est un mot qu'on utilise encore, le fun. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. Le fun est toujours bien au rendez-vous. Donc, soyez rassurés. En tout cas, pour ceux qui utilisent encore le mot. Le fun est toujours au rendez-vous. Ça canarde dans tous les sens. Jusqu'à parfois en perdre un peu la tête et les explosions s'enchaînent dans un tonnerre de feu. Rien à dire de ce côté-là, cet opus de Call of Duty est boosté à l'énergie pure, notamment grâce à la possibilité, c'est vraiment un peu la seule chose innovante du jeu, de mouvoir son personnage de manière bien plus aérienne, jusqu'à sauter sur les murs, ça on l'avait vu lors de la bêta ensemble, quoi. Jusqu'à sauter sur les murs pour éviter les tirs ennemis ou se placer idéalement pour répliquer. La technique, sans atteindre le niveau d'exagération des mouvements en jetpack de Black Ops 3, décrit à l'époque, s'avère difficile à maîtriser. Malgré de longues années de pratique, elle nous a joué bien des tours et laissé à terre plus que de raisons. Le journaliste qui a écrit l'article, déjà, il s'y connaît, il a joué à Call of. Ça, c'est cool. Le fun est également au rendez-vous du mode zombie. Les hordes de morts vivants qui s'élancent en vagues ne laissent que peu de répit. Les effets sont sanglants à foison et quelques minutes suffisent pour s'offrir un moment de défoulement total. Oui, la poilade, on peut dire la poilade. Tu as raison, Yann. La poilade. À ces versions réservées aux fans de la licence capables de dégainer plus vite que le rhum, nous préférons certainement l'aventure linéaire du mode campagne. Je pense que ce soir, votre streamer très âgé va peut-être plutôt faire le mode campagne pour commencer, dont les contours n'ont pas encore été dévoilés. Hein, et ce soir, les gars, on fait le mode campagne, pour commencer. L'histoire nous plonge dans un univers futuriste proche, l'action se situant en 2035, là où elle s'est arrêtée avec Black Ops 2, où les gadgets technologiques ont pris le pouvoir à côté des armes plus classiques. On fait la campagne ce soir ? Hein ? Hein ? On fait hein ? Campagne de fou ? Ce mode promet de longues heures de découverte, d'action, mais aussi de moments d'infiltration et d'intense suspense jusqu'à un intrigant mode baptisé Endgame que les créateurs de Call of promettent comme épique. Pop, 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 pop. C'est avec ces petites surprises que le jeu réussira peut-être à séduire face à un Battlefield 6 plus réaliste avec des zones virtuelles de combat pouvant être traversées à bord de chars, d'hélicoptères ou de jets. Si le jeu ne plante pas, bon, pour l'instant, le jeu qui a fait crasher le PC, c'était plutôt Battlefield. 80 boules, fabricage, je sais pas, l'article disait 60 boules. Allez, on va aller voir sur Steam. On va aller voir combien ça coûte ce truc. T'es plus BF ou Call of ? Bon, je te dirai ça ce soir. 79 boules ? Comment ça, 60 gosses ? Ça y est, bon, j'ai la ref. Alors, Call of. Déjà, t'ouvres Steam, bim, c'est le premier truc, t'as un gros truc comme ça. Date de naissance. Ok. Combien ça coûte ? Je vais vous dire, moi.
2025 n'était qu'un commencement.
On se calme, on se calme, on se calme. 79,99€. La vieille personne me dit La première semaine, c'est plus cher. T'as eu du fun? J'ai eu du fun. J'ai eu du fun. Ouais, 80 balles, ouais. Ouais, putain, c'est cher. Ah, il y a une édition, une autre édition coffre d'armes qui coûte 109,99 €. Ouais, c'est un peu cher. Hein. C'est un peu cher. C'est un peu chéro. Ouais. À la Fnac, c'est 60 euros, me dit Radir Ali. 59 euros chez Leclerc, me dit Reflet. Ok. Ça fait mal aux fesses un peu. Ouais. Classique, le prix en vrai, ça change pas. Ok. Est-ce que je mets 80 balles ce soir dessus? 60 euros première semaine? Bah là, moi j'ai 79,99 € sur Steam. C'est pratique, ça. Tu cliques, c'est sur le PC, bim bam. Ok. Ouais. Bah ouais, mais moi j'essaie de vous proposer du content. Du contenu. Tu vois? Le matin c'est actu, mais le soir c'est gaming. On est sur une chaîne de gaming ici. On joue au Meuporg ici. Donc je pense que je vais le télécharger, je vais l'acheter. Je trouve que BF6 en BR, c'est mieux, c'est gratuit. Oui, le BR de BF6, c'est gratuit. Ouais. J'ai streamé BF6, ouais. Achat en frais de société? Ah bah bien sûr que ça passe en frais de société, c'est du boulot, hein. Vous croyez que je joue aux jeux vidéo pour mon plaisir? C'est du travail, hein. Donc bien sûr que c'est du frais de société, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est du fun ici? Vous croyez que c'est du fun? Vous croyez qu'on est ici pour le fun ou quoi? Suis con, bordel. Voilà les amis pour la revue de presse. À ce soir, pour du fun, car c'est la chaîne du fun ici. Voilà. Parce que travail et plaisir ne devraient pas se mélanger. No job in job, Yann. Je l'ai répété pendant tout le stream sur Dispatch. Voilà. Ne mélangez pas tout. Voilà. Les amis, cœur sur vous. TikTok, vous avez été formidable. Voilà. Bienvenue au nouveau Modo sur TikTok d'ailleurs. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon vendredi, un bon week-end derrière. Ouais, soyez heureux, trouvez-moi les moyens pour mettre de la lumière dans votre vie. Voilà. Pensez bien à vous et puis pensez à ceux que vous aimez aussi. TikTok, je vous retrouve lundi parce qu'il n'y a que la revue de presse du matin qui est sur TikTok. Et par contre, tout le reste, c'est sur Twitch, et notamment dimanche 20h. Ah, c'est pas ça que je voulais vous montrer, ça s'est passé, c'était mercredi, c'était super. Il y a Camille Combal, là, mesdames et messieurs. Je vais vous montrer le visuel. Il y a Camille Combal qui vient à la maison pour Samplay, qui va me faire découvrir un jeu. Voilà. Twitch, vous l'avez déjà, je vous le remets. Non, c'est pas ça, c'est ça. Camille Combal, là, mesdames et messieurs, dimanche 20h. On va jouer à quoi? Je crois que c'est écrit dessus. Splinter Cell. Splinter Cell. Voilà. Donc, c'est l'ami Camille Combal. Hein, qui est l'un de mes animateurs télé préférés, qui est un ami que je connais depuis longtemps. On s'est connus tout jeunes, tous les deux. Voilà. Spéciale dédicace à Eliane Dédier, qui est la grand-mère de Robert dans le chat. Coucou Eliane, coucou Robert. Voilà. Et donc Camille, il vient dimanche à la maison. Lequel d'ailleurs? Ben, très bonne question. J'ai demandé sur Internet et les gens m'ont conseillé un surtout. Lequel vous me conseillez? Lequel vous me conseillez? Le meilleur Splinter Cell? Dites-moi, je note. Il y en a un, j'ai noté. Le premier. Chaos Théo. Voilà, Chaos. Alors, il y en a un dont on m'a beaucoup parlé, c'est Chaos Theory. Est-ce que c'est le premier, ça ou pas? On m'a beaucoup parlé de Chaos Theory. Le premier est ouf, mais très punitif. On partirait bien sur Chaos Theory, non? C'est le 3, mais on me dit qu'il est bien. On me dit qu'il est bien, Chaos Theory. J'avoue que je préfère Splinter Poivre, Mister Pro Lurker. C'est Splinter Cell. Et toi, tu préfères Splinter Poivre? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? C'est dingue, ça, hein? Ok, c'est noté. Splinter Poivre. Ok. Non, ok. Chaos Theory. Ami TikTok, ciao baby. Je vous dis à lundi matin ou sur Twitch. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Hop, je cut le live. Ami Twitch, c'est à nous. Ami Twitch, à nous. Qui est en live actuellement? Parce qu'on va faire un raid, bien sûr. Je vous retrouve ce soir pour du Call of, je pense. Hein. Qui est en live? Ah bah, il y a... Bah justement, il y a l'ami Show H1 qui est en live sur Call of. Allez, let's go. Allez. C'est... D'ailleurs, je crois que j'ai joué déjà à ce jeu avec lui, non? C'est lui qui m'a montré un peu les bases, non? J'ai joué avec Show. Hein? Ah, il est à fond, il est à fond. J'ai joué avec lui, non? Oui, hein? Il m'a montré un peu les bases, je crois. Le jour où quelqu'un va lui faire découvrir Metal Gear Solid, on sera beaucoup, tu crois? Allez, c'est parti, on va voir le Show. Sur Call of Duty Black Ops 7. Let's go. En plus, il est en sponsor, j'ai l'impression, donc on va lui donner de la force. Pas BO7 ? Ok. Merci encore, les amis. Je vous dis à ce soir. Bonne fin de semaine, bon vendredi. Et bon week-end aussi. Des bisous. Merci pour ce matin, c'était bien cool.
Ok, sur cette map, ça devrait être sympa. Mais non !